De preview.
Et voilà, ça y est, c'est parti. Momo voulait se recoiffer et mettre son bob sur la tête.
C'est mon plus beau bob que j'ai sorti pour cette émission en direct.
J'ai même pas capté que tu l'avais sorti finalement.
T'es un petit peu coupé, ouais. Rapproche-toi un petit peu comme ça.
Vous voulez que je sois proche de vous, Maître Doug ? On est bon ?
Normalement, on est bon. Donc voilà, et bienvenue, on est de retour, on est très content d'être de retour pour cette 29e. C'est vrai que quand tu m'as dit que c'était 29, ça m'a paru vraiment énorme.
Je pensais bah ouais, quoi. Surtout que quand je parle de l'émission à des gens, je leur dis ouais, ça fait genre 3 ans qu'on est dessus, mais en vrai ça fait pas mal de temps si tu recoupes aussi le site.
On a une petite legacy.
Ah ouais, de ouf. En vrai, c'est pas rien, là on arrive à la trentaine tranquillement et je parle pas d'âge. C'est top, c'est trop bien.
Donc cool, on a un petit peu fait d'autres choses, une petite pause, etc. On était un peu pris chacun dans nos projets, mais du coup on a décidé de relancer le projet parce qu'on avait des nouvelles choses à dire notamment. Et du coup on part un peu sur une nouvelle formule où on parlera à la fois de rap US, mais nouveauté, on parlera aussi de
rap français,
parce que bon, bien sûr, à part Jojo qui écoute que du rap américain, qui crache sur la scène française.
Je vais pouvoir cracher en toute détente.
Mais justement, tu vas avoir un espace pour pouvoir insulter tous les rappeurs français durant cette émission.
C'était surtout pour ça qu'on fait cette partie-là. Mais...
Non, en plus, c'est faux, il est tellement friand du rap du 92 notamment.
Il faut le dire, c'est vrai.
Mais donc voilà, on va essayer de parler plus aussi d'actu. Donc vous allez le voir, là c'est un pilote. On va présenter un petit peu les nouvelles rubriques qui vont venir. Mais on va aussi garder l'identité, bien sûr, de Deeply Rooted en faisant à chaque fois une petite page sur une scène, du coup, qui pourra être soit US, soit rap français.
Soit FR, ouais.
Ça va un peu élargir aussi nos possibilités. Donc, le sommaire de cette émission, vous voulez rajouter un petit truc?
Bah ouais, non, c'est surtout que en parlant un peu avec l'entourage, au-delà de notre kiff perso, tu vois, pour le rap français, il y avait aussi des gens qui demandaient quand est-ce qu'on allait. Alors, on est sûr qu'on n'a pas 1 million de followers non plus, on n'est pas genre les stars du YouTube game, mais il y avait des gens qui demandaient quand est-ce qu'on allait parler un peu de rap français, parce qu'ils se reconnaissaient plus dedans, dans ce style musical. Du coup, je trouve que c'est cool qu'on puisse l'aborder pour notre kiff et pour les gens qui nous écoutent aussi.
Ouais, voilà, sans dire qu'on va donner un avis d'expert, parce que voilà, on va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais en tout cas, peut-être parler, dire ça peut être cool aussi de donner un peu des trucs sur lesquels on est tombé, qui peuvent être sympas. Donc justement, on va aller retrouver ça un petit peu dans le sommaire. Jojo, tu voulais rajouter un truc? T'es content de retrouver les...
Alors, je suis très content de revenir, qu'on soit de retour ici. Ça me fait plaisir de reprendre ces émissions, parce que c'est toujours un moment de plaisir pour nous. Et bah après, bon bah voilà, on va parler. L'idée, c'est justement qu'on parle de ce qu'on a envie et qu'on soit moins limité. Donc là-dessus, je pense que la formule est bonne.
Donc, sans plus attendre le programme, le sommaire, on commencera par faire un petit tour des actus. Alors là, on va faire plus large, parce qu'en gros, du coup, on va essayer de reprendre. On n'en a pas trop parlé, mais on repart sur une fois par mois, j'imagine. On va essayer de tenir. Ce qui n'est pas toujours simple. On faisait une fois par mois, une fois toutes les 1 mois et demi.
Non, mais après, c'est la réalité du truc aussi. On a tous un peu changé de vie et on continue à kiffer de faire cette émission. C'est pour ça qu'on l'a repris aussi. Mais on ne peut pas non plus... Enfin, voilà, tout le monde a sa vie et l'idée, c'est de le faire le plus régulièrement possible.
Après, dans la mesure de ce qu'on peut faire, qu'on peut donner comme temps. Quoi.
Mais ouais, une fois par mois, ce serait le feu.
Donc là ça va être un peu particulier parce qu'on va revenir sur des trucs qu'on a pu écouter il y a un peu plus longtemps, donc ça va être actu plus long terme, et après on essaiera de faire sur le mois écoulé avant l'épisode. Donc on va faire page actu, rap US, rap français, vous l'avez compris. Ensuite on fera le gros sujet de l'émission, donc à chaque fois il y aura un sujet où on va prendre le temps de développer, etc. Donc là souvent ce sera pour parler d'une scène notamment. Et aujourd'hui, donc, qui nous présente la scène qu'on va pouvoir aborder.
C'est une favorite de Jojo.
On va parler de Baton Rouge. Donc en fait, c'est une ville en Louisiane. On avait déjà parlé de la Nouvelle-Orléans pendant nos débuts, parce que c'était vraiment au tout début quasiment qu'on avait fait ça. Du coup, voilà, on revient sur du rap bien sudiste comme il faut, et on va vous présenter quelques rappeurs, quelques têtes d'affiche. J'espère que ça va vous faire kiffer.
Donc le rap de Baton Rouge, vous en saurez plus. Ensuite, nouveau format, bien sûr, le bif de l'émission. Alors là, ça va être un petit clash organisé par moi-même entre Momo et Joji. Alors un clash, plutôt un quiz.
Il veut vraiment qu'on se taffe, quoi. Il veut qu'on se casse la gueule sur du rap.
Plutôt un quiz. Bien. Du coup, pareil, rap américain, rap français. Je vous en dirai plus tout à l'heure sur la formule. J'ai préparé ça avec plaisir. Après, on fera le maxi best-of. Donc ça existait déjà avant aussi. Ce sera nos conseils. Ouais, les trucs qu'on a kiffé. Donc oui, à chaque fois, pour chaque personne, trois éléments. Du coup, là, il y a l'album, il me semble, du coup, qui vous a mis une baffe, mais qui peut être donc récent au moins. Le morceau récent qui vous a plu. Et le troisième, c'était quoi déjà ?
Un artiste à découvrir, je crois.
Oui, voilà, un artiste à découvrir. Parce que voilà, on pense que ça peut être cool. Et on fera une petite conclusion à la fin. On pourra répondre à vos questions, s'il y en a, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Et du coup, pour les prochaines, on verra. Il y avait aussi d'autres rubriques qu'on voulait incorporer petit à petit, notamment pour parler. C'est un d'autres choses du sampling, on avait parlé éventuellement d'outils utilisés, d'outils pour faire des prods, de producteurs aussi.
Ouais, on a un peu tout ce qui tourne autour du rap, ce dont on aurait envie d'évoquer.
Le doutif.
Des personnages.
À l'esprit. Mais complètement, en 29 émissions, on ne dit pas ça pour se la péter, c'est la 29e, mais on a vu qu'il y avait une tonne de scènes, il y a plein de particularités, et on est tous d'accord ici pour dire que c'est une musique ultra riche, qui a plein d'influences. Et le fait est qu'il y a des techniques comme le sampling par exemple ou le scratch, ce genre de choses qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder et qui méritent carrément d'avoir peut-être pas une émission genre totalement consacrée dessus et encore, mais un gros sujet pour
non, mais ça, faire des ouais, globalement ça peut faire du bien de s'arrêter sur des termes qu'on peut utiliser, qu'on peut dire comme ça comme si c'était acquis, alors qu'en fait des fois on sait pas forcément, enfin les gens savent pas forcément de quoi on parle. Donc ça, c'est cool.
Ouais, moi, je me considère encore comme un apprenant du rap. Tu vois, je découvre des choses au quotidien, des choses que je redécouvre, même des choses que j'analyse différemment. On parlait du sampling. Là, il y a un truc que je kiffe faire, c'est écouter un son. Je me rends compte que c'est pas quelque chose de composé, ça vient de quelque part. Et t'as un site qui s'appelle Who Sampled.
Tu retraces le parcours.
Je fais le digger du dimanche, mais c'est trop cool parce que ça me fait des listes de sons qui n'ont plus rien à voir avec le rap. C'est souvent du jazz, de la soul, parfois un peu de rock. Mais ça me permet de me constituer une autre culture musicale. Et je trouve ça archi stylé d'en parler, de le partager. Et le site est vraiment bien foutu. T'as une application pour le coup. Je m'en sers pas quotidiennement, mais très très régulièrement.
Quel est le modèle de ce site ? Est-ce que c'est bénévole ?
Je pense que tu peux contribuer si t'as un sample en tête qui n'est pas répertorié.
Tu peux payer. En fait, t'as un système où c'est gratuit. Ça te fait ta base t'as une énorme base de données avec les sons, les références et un truc. Et t'as une formule payante où quand tu as trouvé la chanson qui a été samplée, tu peux un peu la mode de Shazam, la mettre en mode playlist. Enfin, tu te constitues une playlist et extraire la musique, etc. Donc c'est plus poussé. Ça t'évite d'aller rechercher sur internet le nom, etc. En cliquant dessus, tu peux l'ouvrir dans Spotify, etc. Et ça te permet de faire une playlist depuis l'application. Et je pense que t'as d'autres features, j'ai pas trop bien regardé, mais dans mon utilisation, c'était pas intéressant. Mais en tout cas, vraiment, bête d'appli, je conseille d'utiliser.
Ouais.
Si on a envie de diguer un petit peu.
Il y a Hello Tuno qui dit bonjour, enfin qui dit l'ami fait de retour.
C'est bon Tuno, quoi. Il a vu la notification.
Hello Tuno. Hello Tuno.
N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs sur le son, etc. et à poser vos questions si vous en avez. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la rubrique.
À l'actu. Complètement.
Donc on va aborder un petit peu les dernières sorties. Enfin, en tout cas, peut-être pas parler de tout parce qu'on n'y arrivera pas, mais des choses que vous avez appréciées. On peut peut-être commencer par le rap français. Alors, on a eu le droit par exemple à PLK qui est sorti un petit EP récemment.
Ouais, qui est aussi là.
Il y a Kekra, le fameux Tounsi Freestyle Part 3
de Al Capote
également, qui bien sûr méritera qu'on s'y attarde. Voilà, qu'est-ce que vous avez écouté ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Jojo ?
Ça va être rapide, moi j'ai pas écouté grand-chose. Non, franchement, le dernier truc que j'ai écouté, c'était l'album d'Al Capote, que j'ai bien trouvé vraiment cool pour le coup.
Il s'appelle le dernier.
Alors putain, là, je sais plus. Non, je sais plus, mais t'avais le morceau avec Joker et. C'est Joker, c'est ça ?
De la mafia zeutrée, comme il
dit. Ouais, c'est ça. T'as le morceau avec Caballero et Jean-Jas.
Je crois que c'est ou la marche de l'Empereur 3 ou un truc dans le genre. Là,
non, c'est pas marche de l'Empereur. C'est LSDC, c'est ça.
C'est pour ça que j'avais oublié le nom aussi. C'est vrai qu'il est sorti un petit peu.
Non, pas en mode confidentiel. Mais tu vois, le feat avec Kai Duhem, là, chargé, j'avais entendu. Mais j'avais pas vu.
Drap en sang, oui, en effet.
Il y a un magnifique titre qui s'appelle Crypto. Voilà, on dira pas sous peine de se faire strike.
Mais... Non, j'aimais bien le dernier morceau de cet album, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais.
Sans chaud.
Voilà.
Pas le joueur de foot, mais ça t'a tout de suite mis en ébullition. Donc, ouais, Sans chaud de LSDC, sorti en 2023. Donc, c'est tout récent, en vrai de vrai.
Ouais, Capote qui, comme le bon vin,
continue de se bonifier.
C'est incroyable, hein, c'est, je vais envoyer un lien d'un freestyle sur Génération. Je sais pas, ils ont sorti un nouveau format qui est un peu adapté aux shorts et à TikTok. Et genre en mode, c'est vraiment des petites vidéos d'une minute trente. Et Al Capote, genre, fait un freestyle et il est mais genre toujours au top de sa forme, au top de l'actu. Enfin, jamais ils sonnent outdated, tu vois, il est jamais en décalage, rien et tout. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça incroyable en termes de longévité, tu vois.
Bah, pour le coup, en plus, bah, c'est Tounsy Freestyle, c'est ce qu'il fait avec Didier Williams.
Tounsy Freestyle.
Non, en fait, du non, coup, ça m'a permis de voir que Didier Williams avait sorti. En fait, c'est incorporé dans la boulangerie française volume 3, je crois qu'il vient de sortir, là. J'ai pas eu le temps d'écouter les autres sons. Mais du coup, dedans, il y a ce morceau avec Al Capote.
Didier Williams. Non, je désolé de te couper, j'allais dire Didier Williams aussi, qui mériterait clairement un gros sujet à lui en termes de scène un peu underground, mais visible, et des mecs... Enfin, que tu parles du Patapouf Gang avec Bifty, Dalka, enfin il a même tourné avec Vald et tout, enfin avec Seven Joes, enfin c'est il est un peu partout quoi.
Ouais, bah clairement je pense que c'est un sujet qu'on peut se mettre de côté. Bah il toi, a si ça peut te parler non ou pas.
Moi faut que vous me guidiez je pense sur le français, vous me disiez où est-ce qu'il faut que je jette une oreille, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis plus très près donc.
Et puis c'est fou là, enfin j'avais pas vu autant le concept de boulangerie française, je connaissais dans la vraie vie et musicalement parlant, mais là je regarde, il fait le premier son c'est avec Al Capote, le deuxième c'est avec Souffrance qui est quand même un artiste plus de la scène underground mais genre dite consciente, on va dire ça comme ça.
D'ailleurs.
Je crois Souffrance c'est de Montreuil, ouais. Je crois ouais, mais c'est cette vague enfin de.
Ça c'est celui-là le dernier, t'es sûr?
Ouais, ouais, bah 2023, ah, ouais. Et mi-février 2023, il est avec Jarod qui est un peu sous les radars. Jarod qui avait éclos en même temps que Watibé, Maître Gims et tout. Nimsa Dolnay, pardon, un mec qui s'appelle Bob Marlish, Young Lidl, Josué.
Bob Marlish.
Ouais, Bob Marlish. Ouais.
C'est vrai qu'il y a des noms, tu dis.
S'il n'y a pas qu'aux États-Unis qui font des noms de.
Ouais, ouais, non, mais je pense que là on est en train d'upgrader dans les noms. J'avais envoyé un truc d'ailleurs à Pierre et Doug. Enfin, des noms, mais genre, enfin, déjà, on a eu Cobaladé à un moment, mais que tout le monde connaît. Et puis là, genre, sur les noms, ils sont battent les doigts de pied, quoi. Genre, ils s'appellent n'importe comment. On pourra faire une émission juste sur les noms farfelus dans le rap, tu vois.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup, une oreille plutôt, au projet d'Al Capote et DJ Widim. Il y a eu un remix aussi de
Van Vicrave. On a découvert au détour d'un festival avec Pierre, qu'on salue d'ailleurs. Et ouais, c'est ça tabasse pour le coup. Van Bicrave, on est plus sur quelque chose d'énervé qui ressemble pas forcément à ce que fait. Enfin, c'est Al Capote fait des trucs énervés, mais pas dans cette même veine. Là, on est plus sur de la dubstep, la techno. Mais c'est marrant que les deux univers se mélangent, je trouve.
Voilà, du coup, Al Capote. Après toi, je sais que Kra notamment.
Ouais. Stratosphère. Enfin, ouais, bête d'album. Un peu longuet à mon goût. Moi, de toute façon, j'en parlais avec Jojo la dernière fois. Moi, je privilégie surtout dans le rap globalement le format court. Franchement, pour moi, genre 10-11 titres.
Ouais, c'est un peu. Top. C'est vrai que 17-18, il y en a.
Tu l'avais écouté, toi?
Non, je ne l'ai pas encore écouté. Je l'ai vu passer. Je me suis dit, c'est. Ouais, non, je suis un fan depuis longtemps de Kekra, mais ça fait un peu petit moment que je m'étais pas repenché dessus, et là celui-là je m'étais dit que je me le ferais, mais j'ai pas eu le temps de.
Bah, j'ai écouté un podcast
mais j'ai vu qu'il était long, ouais, du coup c'est vrai que c'est pareil, ouais, c'est un peu un truc qui te freine aussi, parce que du coup tu dis ah, il faut que je l'écoute, mais
regarde, enfin ils te mettent pas le nombre de titres, mais je crois de mémoire il y en a 18, et moi je trouve ça beaucoup, genre en termes de replay value, je trouve ça, enfin le fait de la replay value sans vouloir faire le mec, c'est le fait de pouvoir relancer un disque et se le réécouter, etc.
Bah, c'est beaucoup moins digeste, plus il y a de morceaux, plus.
Ah, après, ça dépend, parce qu'il y avait justement l'autre approche qui avait été lancée un peu, enfin, qui était plus récente, qui est de dire on fait 18 titres et les gens ils piochent dedans, qui n'est pas la même chose que.
Après, il y a une stratégie de stream aussi là-dedans,
bah, voilà,
ce que faisait Migos, qui faisait des albums à 25 titres pour.
Moi, j'ai Gims en tête qui marchait comme ça, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il sortait des doubles albums avec 20 sons dedans. Dedans, il y en avait 4 ou 5, c'était des tubes, les autres, tant pis, c'est pas grave. Mais il mise sur la quantité.
Mais c'est marrant, il y avait quand même eu cette phase-là. Alors, dans le rap US, je pourrais pas dire, il y a eu des gros doubles albums, mais dans le rap français, à un moment, bah, La Fouine l'avait fait, Rof était genre archi chaud là-dessus, mais parce que c'est dans son personnage de genre kicker, d'enchaîner les tracks. Ça veut pas dire que. Enfin,
oui, mais c'est pas forcément faire du bon. Projet, enfin, complet, les doubles albums, c'était souvent en plus, parfois ils essayaient de faire la partie consciente, la partie.
Oui, oui. La Fouine versus La Uni, incroyable l'album. Mais là, tu vois, genre, je regardais même. Pour s'y retrouver, enfin, en soi je suis pas perdu, mais tu scrolls sur Spotify par exemple, et t'as genre 14 000 singles et l'album, et en fait c'est des singles qui sont tous issu du même album, et c'est effectivement pour favoriser le stream, quoi, et les gens consomment ce dont ils ont.
Ça change complètement l'usage et puis le format, parce que du coup, les albums, moi, tu vois, je sais même plus si on parle de double album aujourd'hui, parce que sur Spotify, t'as qu'un seul truc. Enfin, qu'une seule liste, et moi j'écoute voilà, des rappeurs ricains, pareil, c'est la mode, hein, ils sortent une trentaine de morceaux, enfin, on n'est plus étonné de ça, et puis on parle pas de double album, on dit juste, ah, il sort un nouveau, un rappeur dont on va parler aujourd'hui, qui a sorti 33 titres, là. Bon, ça va sûrement faire plein de vues, enfin, ça va lui apporter plein de nouvelles vues, puisque plus il y a de morceaux, forcément, plus, si les gens ils écoutent tout l'album, ça fait 33 vues, directement. Après, voilà, c'est un peu... C'est un peu dur à digérer, je trouve, comme...
C'est le mauvais pendant du streaming, selon moi, parce que le fait est que tu peux envoyer des sons n'importe quand, t'es pas obligé de faire une maxi-promo autour pour sortir un son. T'as pas toute une machine, tu le laisses, les gens s'en saisissent, ils le consomment sur le temps, etc. T'as pas l'effet, genre, un peu pas dépassé du disque dans le bac de disques, tu vois, mais... Je pense que t'as des rotations, je m'y connais pas assez, mais dans les boutiques de disques, t'as forcément des rotations et ton scud, il doit bouger. Le fait que ça soit sur une plateforme de streaming, c'est là, ça bouge pas. Et en termes de processus créatif, je trouve ça cool parce que tu peux envoyer ça comme tu veux. Par contre, c'est vrai que ça fait que tu te retrouves avec des albums à genre plus de 30 titres. Enfin, moi je peux plus, tu vois. Je peux plus du tout
consommer.
Tu
avais dit 3 sons comme ça à donner de Stratos, juste pour les gens qui ne connaissent pas que Kraft.
Les Chaos avec Hamza, mais on peut en parler vite fait parce qu'il a sorti son album aussi qui est assez insane, sauf le feat avec Damso que j'arrive toujours pas à digérer plusieurs mois après la sortie.
Ouais, il y a eu.
Ouais,
je sais qu'il y a débat sur ce truc.
Bah, je pense, en fait, je vais sûrement fermer ma gueule en été et être très content de danser là-dessus. Je crois que c'est sample de mémoire et Will Survive, je crois que ça sample, si je dis pas de bêtises. Ou je dis une connerie. Non, je crois que c'est ça. Ouais.
Non, je crois
On va pas le mettre en live, mais en tout cas, le sample avec. Je sais plus si c'était Will Survive.
Bref. Damso et Hamza sur Will Survive.
Ouais, non, mais le morceau est un peu zinzin, tu vois. Je voulais de Kekra du même album du coup qui est moi mon son préféré. Je trouve qu'il est archi nostalgique, aérien. Il y a pas un petit côté PNL, je crois que j'aime caser PNL un peu partout, mais je sais pas, je trouve que c'est un son qui est assez prenant au trip parce qu'il parle de son passage en prison sans dire qu'il était en prison. Enfin, il y a plein de choses, même Iverson, tu vois, dans une enfin moi je le trouve très stylé parce que j'ai l'impression qu'il a encore une petite marge d'avance sur la concu, mais en même temps, en interview avec Mehdi Maizi, dit qu'il a sorti le son, il a composé il y a 3 ans, donc je me dis, ou soit il se fout de notre gueule, ou soit ce mec est vraiment genre des années en avance sur le rap. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, mais. Et en vrai, l'album.
Moi, je pense, parce que c'est vrai que quand t'écoutes les premiers trucs qui sortaient, enfin, moi, ça me paraît aussi plausible qu'il a un peu. Enfin, il a de l'avance, parce que quand t'écoutes les premiers trucs qui sortaient, t'as l'impression que personne d'autre faisait ça.
Non, il est ça.
Alors que peut-être si tu fais écouter maintenant ses premiers projets à quelqu'un qui écoute le rap, il te dira, ça, j'ai déjà entendu ça chez un tel, alors qu'ils n'existaient pas encore à l'époque.
Alors, il le fait peut-être mieux maintenant.
Oui, c'est plus maîtrisé.
Il le maîtrise mieux, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a ce côté-là.
Et un G-son, le feat avec La Fève, incroyable rappeur. C'est vrai qu'on parlait d'actualité. La Fève, c'est le turfu. Du rap français pour moi. Ouais,
c'est vrai que j'ai entendu parler de ce son, je l'ai toujours pas écouté, mais j'ai vu quand l'album était sorti, tout le monde disait La Fève, enfin le son Kukra La Fève, et il y en a un troisième, non?
Alpha One,
oui, voilà, tu vois.
Donc... Un peu de respect, je dis sur son nom, vraiment, j'étais sur
la France. Comme je l'ai pas écouté, voilà, je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait ce trio là. Et
puis Dean Burbigo aussi, en rap français, qui pour. Enfin, moi, ça fait 20 000 ans que je se compte que Alpha One et Dean Burbigo sont les meilleurs de leur équipe, de l'entourage. Doug ne voulait pas m'écouter. Bon, Nekfeu, on en parlera pas, c'est vrai qu'il est incre. Et on a fait le concert avec Pierre, du coup, de Dean Burbigo en début d'année, en janvier à l'Olympia. Incroyablement, il y avait tout le crew et tout. Et il a sorti la Saboteur mixtape pour promouvoir d'autres artistes. Trop bien. Concert trop bien, la tape globalement, un bon 7,5 sur 10 si on commence à mettre des notes au projet. Et La Fève, ouais, turfu du rap français, vraiment, vraiment quoi. À ne pas confondre avec La F, qui est un tout autre rappeur de Lyon.
Voilà, après dans les autres trucs marquants, on l'a dit Hamza, mais ça, bon, vous avez dû le voir passer. Moi, ça a été, j'avoue, un bon coup de cœur. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à.
Sur le rap US, rapidement, ouais. Je suis pas au fait à mort de l'actualité parce que ça sort à toute berzingue.
On n'a pas parlé, il y a notamment Gucci, je crois, qui a sorti un projet là.
Alors, il a, sorti moi, ce que j'ai vu, alors peut-être que là, aujourd'hui, il a sorti un nouveau truc, il avait sorti un projet de freestyle. Donc, j'avoue, moi, j'avais vu le morceau, mais d'ailleurs, c'est même pas sur ce projet-là. Il a sorti un assez bon morceau avec O6, qui s'appelle O6 Gucci avec DaBaby et. Qui m'ont pas marqué les deux autres, mais en fait c'était une sorte d'hommage à Gucci avec Gucci, tu vois, sur le O6 Gucci.
Donc mais
le
Gucci, de Gucci, quoi,
le Gucci des années 2000, enfin deuxième moitié des années 2000, où il était inarrêtable sur le mixtape. Et du coup, oui, j'ai vu ce super morceau là. Après, j'ai vu qu'il y avait une petite tape qui était sortie, mais qui m'a pas trop.
Ah oui, c'est DaBaby et 21 Savage.
Ouais, voilà, c'est ça.
Avec Gucci Mane.
Ouais. Avec Gucci
Mane.
Genre
la tape entière est faite de ça ou c'est juste le morceau?
Non, là, c'est juste le morceau. Et après,
06.
Il a sorti un petit projet avec des freestyles, mais avec des anciennes instrus, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu. Pas tellement voulu écouter, mais. Mais oui, après, le problème du rapricain, c'est que c'est tellement. Il y a plein de styles différents. Au bout d'un moment, tu comprends un peu ce que tu préfères. Enfin, moi, j'ai compris ce que je préférais comme scène, comme type de rap. Donc, tu es un peu obligé de piocher là où tu veux. Si c'est, enfin, tu peux toujours tout suivre. Regardez, ouais, il y a un tel qui a sorti ça, un tel qui a sorti
ça. Il y a
ça,
Pierre
mais...
aussi qui a sorti un projet.
Comment ?
Pierre Bourne.
Ah, Pierre, il a sorti un projet. J'ai pas écouté encore, mais ouais, ça. Voilà.
Et c'est fou d'ailleurs, en parlant de Pierre Bourne, je pense que. Enfin, nous, on connaît pour le coup, sans non plus être. Enfin, toi, tu es quand même plus connaisseur de Pierre Bourne. Il y avait une interview de très bien, j'ai oublié le nom de ce producteur français, Paddy Casboy. Très bien, ça va me revenir à l'esprit.
Si, non.
Non. De Tim Montreuil, de Bon Gamin, de Hichon, etc. Ça, c'est fou.
Midsizer,
exactement. Ouais. Qui disait que c'était un énorme fan de Pierre Bourne et qu'il l'avait influencé, que tu retrouves plein de trucs de Pierre Bourne. Là, il est en train d'avoir sa petite legacy. Ah ouais.
Même dans pourtant, Midsizer, il avait commencé avant même que Pierre Bourne y pète. Hein, donc. Enfin, je pense, hein, ça fait Midsizer, ça fait quand même bien 10 ans qu'il est là.
Ouais, non, à peu près dans ces deux-là, ouais. Mais il disait que lui
après,
avait.
Après, c'est sûr que Pierre Bourne, il a clairement changé la phase de la trappe, en fait. Enfin, avec,
ouais, quoi, non.
Avec Playboi Carti, Young Nudy, ils font des trucs. Enfin, c'est un petit peu eux qui sont, je trouve, qui renouvellent vraiment le genre, là où moi je trouve que peut-être les têtes d'affiche, genre bah, justement DaBaby, 21 Savage, bah, on reste un peu toujours sur les mêmes. Le même genre de prod, le même genre d'ambiance. Moi, voilà. Je suis plus team Pierre Bourne que Zaytoven sur les dernières sorties.
Je n'ai pas écouté le dernier. Donc.
De Gucci ?
Non, de Pierre Bourne.
Non, de Pierre Bourne, non.
Dans les autres sorties
bah, moi, j'en ai écouté quelques-unes quand même. J'ai écouté, bah, déjà, je dois dire que je suis bien content parce qu'il y a le fameux O3 Guido qui est sorti de prison. Ça faisait 5 ans qu'il y était. Et bah, il a sorti un énorme projet indigeste de 33 titres, comme il a l'habitude de le faire. Bah, qui est pas aussi bien que ce qu'il avait pu faire avant. Mais bon, voilà, comme tous les mecs qui sortent de prison, il dit qu'il a sorti, il a écrit 200 morceaux. Donc il va arriver avec du lourd. N'empêche que ça fait trop du bien de le retrouver. Enfin, moi, je suis hyper fan. Il a un côté mélodique assez unique, je trouve, une voix, un grain de voix assez unique. Après, il est dur à comprendre parce qu'il mâche complètement ses mots, mais voilà, il y a quand même une ambiance complètement spéciale qui ressort de sa musique. Et voilà, donc l'album qu'il a sorti qui s'appelle
Halfway Three.
Ah bah c'est ça, Halfway There. Moi je trouve que quand t'aimes bien Grido, bah, ça fait vraiment plaisir de le rentendre, même si c'est très long et que bah, tu te le fais pas d'une traite l'album parce qu'il dure 2 heures. Mais,
non, mais ça pourrait être pas un sujet, j'ai pas envie de créer des sujets à toi, mais je pense que t'as ces trucs là, t'es un peu l'artiste où tu sais que bon, oui, c'est pas zinzin, mais vas-y, tu t'es content de le retrouver, surtout si tu l'as pas entendu.
Bah, c'est ça, enfin, après, il était resté présent pendant ses années de prison parce qu'il avait enregistré plein de trucs avant. Et il y avait eu deux projets, parce qu'il y avait un projet avec Mustard qui était pas mal, et un autre projet avec le producteur Run Run, de LA, un des producteurs un peu en vue là-bas. Et ça, c'était très cool, mais après, ça, il s'est passé bien 2-3 ans où il continue à sortir des trucs, mais c'était de moins en moins bien. Donc là, on sent qu'il revient avec un truc frais, un truc un peu. Enfin, tu t'imagines que les deux dernières années, ce qui sortait, c'était les derniers trucs, les laissés pour compte, ouais. Les morceaux. Voilà, donc bon. Là, ça fait du bien de le réentendre. Et même si oui, j'espère qu'il y aura d'autres sorties et qu'elles seront meilleures que celles-ci, j'ai quand même bien kiffé et ça fait vraiment plaisir. Okay. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu Ray Schremerd, dont je vous ai parlé.
Ouais, j'ai jeté l'oreille aussi.
Que moi, j'ai bien kiffé. Mal, ouais.
Il m'avait conseillé, Joji, il m'a dit, pas à moi, ce qu'il avait mis sur le groupe, mais non, j'ai pas eu... Là, je suis un peu... Là, mon obsession du rap US en ce moment, c'est The Alchemist. Genre, vraiment, je me suis... j'ai fait tous ces trucs... Enfin, justement, c'est pour ça que je parlais du format court, parce que lui, il est là-dessus, il l'a fait avec les mecs de Griselda, avec Baldy James, il l'a fait avec...
Il est un peu partout, en fait.
Ouais, non, mais là, pour moi, c'est de ces dernières années...
Tu n'identifies même pas forcément un style, parce qu'il est...
incroyable.
Il fait aussi bien avec des mecs de Détroit, de New York, LA, enfin, il est un peu partout. Peut-être moins dans le sud, mais... Ah si, ouais, il est avec Currency aussi, il a fait plein
Currency,
de trucs.
Il en a fait un, il a fait un... Je crois avec Action Bronson, si je dis pas de bêtises, mais ça c'est
avec Action
Bronson,
famille,
tu vois. Ouais. Moi je le trouve incroyable, tu vois. Et sur des courts formats, pareil, de entre 9 et 12 titres, ça me tue. Et il avait fait un truc avec Freddie Gibbs, donc c'est pas le Sud non plus, mais ça reste la Virginie, c'est pas. Enfin, The Alchemist, il était très New York, Mobb Deep fut un temps. Donc c'est
oui, mais il a fait un projet avec Prodigy. Ouais.
Avec Prodigy, ouais. Et je le trouve archi versatile. Je m'ennuie jamais quand j'écoute ses projets. Et puis je me dis pas, ok, c'est The Alchemist, il y a tout le temps la même patte qui revient. Trop pas, je trouve qu'il arrive à créer un.
Bah, c'est ça qui est fou, c'est quand tu vois la diversité des rappeurs avec lesquels il bosse, et qu'à chaque fois, ils respectent leur ambiance, leur style, mais c'est ça qui est assez fou, c'est un caméléon un peu. Et oui, c'est toujours Kali. Je veux pas dire le contraire.
Non,
moi, j'ai pas écouté celui avec Larry June pour le coup. Ça, en plus, c'est vrai que la pochette, elle donne trop envie. Mais je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore écouté. Mais
on parlera un peu plus tard. Mais voilà. Moi, c'est mon. Je dis. Enfin, je regarde pas trop sur l'actualité. Je fais pas trop attention. Enfin, je me l'apprends pas aussi non plus plutôt. Mais par contre, il y a des gens sur qui je gratte plus et The Alchemist en fait partie.
Ok, très bien. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur d'autres projets. Peut-être sur l'Uni, sur la sphère du rap, 2-3 actus aussi, autres que des albums. Notamment, est-ce que vous avez suivi l'actualité autour de Kanye West ? J'ai plus envie de suivre l'actualité.
Je crois qu'il a fait des dérapages de pire en pire.
Il a abandonné la course à la Maison Blanche, parce qu'apparemment, c'était quasi officiel. Il allait
faire. Dommage.
Je pense que ce rappeur m'a blasé depuis tous ces trucs-là de Yeezus, Pablo, là, c'est fini. Après, t'as les sorties médiatiques.
Le truc, c'est que musicalement, je suis toujours un peu curieux. Pas de mentir un truc, parce qu'il est quand même, ultra doué, on peut pas se mentir. Maintenant, c'est sûr qu'il y a tellement de conneries, tellement de faits divers à la con et de déclarations de merde qu'il a fait. Franchement,
voilà, c'était clairement des déclarations racistes.
Oui, non, mais voilà.
Il y avait les trucs qui avaient sorti avec ces déclarations antisémites. Le fait qu'il aille au Super Bowl, c'était pas celui-ci, mais le dernier, où il y va cagouler entièrement. Il est assis, il était comme ça dans la foule. Tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, c'est de la com', c'est du machin. Il y avait tout le truc avec les gardes à champs qui me donne envie de vomir. À tout jamais, oui. On va parler de la famille Kardashian.
Non, pas du tout, je viens de voir passer une actu tout à l'heure. Alors hier, il y avait toi, tu suis un peu les sports de combat, non ?
Oui, voire même un peu, enfin pas de près, mais...
Je crois qu'il y avait un combat, alors si tu retrouves le nom du truc, parce qu'il est rentré sur Love Sosa, avec Tiff Kiff à côté de lui, donc il est rentré dans la salle, tu vois, avec Tiff Kiff à côté qui faisait Love Sosa, apparemment.
C'est un mec de Chicago, non ? C'est pas Kamaru Usman ?
Non.
Je sais pas qui...
Attends, j'ai pas compris ton
actuel. C'était l'UFC.
C'était Garcia, je crois. Attends, je revérifie ça tout de suite.
Ah, il y avait Chief Keef présent sur scène.
Non, pas présent, mais présent à côté de lui pour rentrer. Voilà, Ryan Garcia, et voilà. Et lui, il est rentré avec Gervonta Davis. Je ne connais pas.
Non, pas du tout.
Bah, apparemment, voilà, je vous laisse aller voir, c'était un grand moment. Quel plaisir de revoir Chief Keef, bien sûr.
Bah, lui, il se fait un peu discret pour le coup.
Il fait des événements.
Son dernier album était vachement bien, mais ça fait bien un an qu'il est sorti. On a l'habitude qu'il nous sorte 3-4 albums par an, donc ça fait bizarre.
C'est pas plus mal, parce qu'il était parti sur d'autres fin, pas d'autres délires à la fin, mais...
Bah après, lui, il a toujours changé un peu, il a toujours été très, très versatile. Ce qui est... que je trouve plutôt appréciable, justement.
Et incroyable, dédicace à... Enfin, j'adore dédicacer les gens, mais j'ai une collègue, Jenny, qui m'a offert un bouquin à Noël sur la musique trap en général. Et dedans, t'as une partie sur... les jeunes de Chicago, et en fait, à force de mater des clips, tu vois tout le temps des gens, et c'est d'autant plus le cas, enfin, tout autant le cas à Bâton Rouge, où tu les vois, les mecs, ils ont des calages, ils ont des armes qui sont aussi grandes qu'eux, et tu sais pas d'où ils sortent. Et en fait, dans une partie du bouquin, il parle de ça, t'as un journaliste qui va faire une espèce de reportage à Chicago, Et tu te rends compte que, ou soit c'est du toc, ou soit. Parce qu'en fait, quand tu parlais de Chief Keef, ça me faisait penser à ça. Ou soit c'est carrément des gens du quartier qui sont, pour le coup, vraiment dangereux, ou dans ce bail-là de vente de drogue, etc., qui leur prêtent les armes pour tourner le clip, mais les mecs que tu vois, en fait, non. Genre, rien, à aucun moment, ils ont vraiment touché une arme. Ne touchez pas d'armes, bien évidemment, je ne ferai pas du tout la promotion des armes à feu.
C'est,
mais...
c'est pas des vrais, quoi.
Pas des vrais, ouais. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre.
Ça ne serait pas douté.
Moi, je me suis dit, ça, ils sont violents, ils s'agitent avec leurs clips, c'est tout, là.
Bref. Voilà, sur le rap français, moi, j'avais noté 2-3 trucs qui m'avaient parlé un petit peu.
C'est et... à vous.
De quoi ?
Non, parce que c'est vrai que je pense à
l'actualité globale, on en a parlé un petit peu, parce que l'effervescence en France actuellement, qu'est-ce que c'est, Joachim ?
C'est Booba qui s'attaque à Macaliber.
Ah, bah ça, c'est vrai que j'ai suivi un peu cette histoire-là.
Ça pourrait être ça. Mais non, bien sûr, c'est la contestation contre la réforme des retraites, bien sûr.
Dans le rap français ?
Exactement,
oui.
Et oui.
Car, là, il y a Medine qui était. Tu voulais peut-être en parler.
Ouais, voilà, justement, j'ai vu, il y a ça qui était cool, parce qu'on a vu quand même pas mal d'actu au niveau rap de ce côté-là. Il y a Medine qui allait bloquer le port du Havre, par exemple.
Oui, ça, j'ai vu que j'ai vu.
Ah, mais c'est vrai, il est vraiment. Enfin, ouais. Au-delà de toute opinion politique, je trouve ça vraiment. Enfin, il y a son message, il y a son personnage qui, pour le coup, se tiennent, et puis il y a les actions qu'il fait derrière. Je pense que c'est facile de scander
les trucs. Il fait ça bien, dans le sens où il en joue pas. Et
non, pas du tout.
Ça, mais en même temps, bah, il revendique le fait que. Puis bon, sans parler de son. Contre l'extrême droite aussi. Où
il... Ah, mais il a encore été ciblé, là, il n'y a pas longtemps, je crois. Ils ont essayé de l'interdire de salle, je sais pas où, là, il n'y a pas plus tard que 2-3 jours. Ouais. Genre le... enfin, c'est la deuxième série de fois où il se fait attaquer par le RN et qu'ils veulent lui interdire le. Il lui avait interdit le Bataclan. Enfin,
il lui, pas, il lui avait interdit. Ouais. C'est que du coup, il se fait un plaisir à les troller aussi. Et sur scène, du coup, il est dédicacé en mode ah ouais, du coup, vous voulez m'empêcher.
Parce qu'il a fait un concert avec une piñata, un peu logoté Rassemblement National, et genre, j'ai pas vu les images, parce que pour le coup, j'ai eu la chance de le voir à Nanterre fin d'année dernière. Très chouette, la salle était un peu endormie, mais très chouette quand même. En tout cas, lui est full énergie sur scène. Mais il n'y avait pas de piñata du l'effigie du Rassemblement National, je vais pas name drop.
Ça se serait peut-être réveillé s'il avait fait ça.
Peut-être, ouais. Mais il s'est fait emmerder pour ça, tu vois.
Donc il y a ça, il a lancé un podcast aussi, je ne sais pas si tu as vu passer ça, on en parlait avec Momo, un podcast qui s'appelle Made in France, et donc du coup toi tu m'as dit qu'il parlait plutôt de...
Bah, j'ai toujours pas écouté, j'ai vu sortir, mais ouais, en fait il a invité Walidia, Sofiane Pamar, et j'ai oublié la troisième invitée, c'est une nana, et je pense que l'idée originale c'est parler de ça, parce que le descriptif du podcast c'est toi aussi tu te fais arrêter souvent par la police, ah bah oui moi aussi, et je vais te raconter comment. Un truc dans le genre, j'ai pas envie de dire de bêtises.
S'il y a Walidia, ça m'intéresse en tout cas.
Mais en tout cas, ouais, l'idée c'est de donner aussi de la parole, parce que, enfin, donner la parole à des gens qui peut-être pas s'expriment bien, mais qui ont ce sujet, le traitent aussi sous d'autres formes. Je sais que Walidia, il en parle souvent du racisme, de la discrimination, etc. Et je crois comprendre qu'il est un peu en mode contre-pied. C'est-à-dire qu'on s'attend tous à ce que ça soit un peu plaintif, et je crois que c'est pas le cas. Je vous invite à aller écouter, parce que Medine, ça reste quand même un mec intéressant. Après, d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Mais il le dit bien, il le fait bien, donc à tester. Et c'est sûr que j'écouterai pas pour le coup.
Et mais du coup, Booba aussi, justement,
oui.
A annoncé qu'il allait peut-être sortir un podcast. Mais du coup, plutôt
pour ça taper les pas bien. Et voilà.
Mais à mon avis, il a lancé ça comme ça, contrairement à Medine, où c'est un vrai projet, travailler avec des gens, à mon avis, compétents.
Oui, alors il faut peut-être pas prendre au sérieux tout ce que met ouais. Booba sur les réseaux.
Bah après,
c'est ça que tu veux dire.
Il avait lancé son projet sérieux et tout.
Il a, justement, je parlais des retraites, il y a eu, je ne sais pas si tu as suivi, les concerts qui sont faits pour les caisses de grève, notamment. Alors, en gros, c'est un collectif qui a lancé ça à Paris, donc ça s'appelait Brave. Mmh. Le titre, ils ont fait ça le 9 avril, et donc il y avait une cinquantaine d'artistes. Pas mal de gens pas trop connus, qui voulaient mettre en avant, etc. Après, il y avait quelques noms, Medine, Soprano, des gens comme ça. Et en fait, ils ont reversé tout l'argent pour les caisses de grève.
Trop bien.
Et ça a cartonné, toutes les places sont parties. Il y a eu plus de 5000 euros, je crois, récoltés. Ils en ont fait du coup une autre à Lille, là, le 19 avril. Et c'est un truc, c'est un peu en train de popper. Mm-hmm. Et j'ai regardé, c'est marrant parce que ça existe aussi, ce genre de choses, de solidarité. Aux États-Unis, ils avaient fait un truc pour le 1er mai, je crois, pour les syndicats notamment. Du coup, ils avaient fait un projet pareil où ils vendaient l'album et. La recette est allée pour des luttes, et au Royaume-Uni aussi, pareil.
Bah, aux États-Unis, ils ont très énormément ce concept de community. C'est un truc qui nous fait rire. Enfin, c'est le genre de provide d'un peu d'aider dans sa communauté. Je sais que Jeezy l'avait fait, ils avaient distribué des dindes pour Thanksgiving, ils avaient donné de l'argent, etc. Après l'ouragan Katrina, ils sont très impliqués dans leur secteur, peut-être moins national, après sur toute la partie politique.
Ouais.
Si, t'avais Kendrick qui l'avait fait, même YG et Nipsey Hussle qui avait sorti Fuck Donald Trump. Si, c'était YG qui était avec le.
C'est ça, ouais. YG.
Donc ils sont quand même politisés, mine de rien. Après, c'est vrai que ce genre de mouvement caritatif, on va dire.
Ouais. Quoi, on va dire qui se rapprochait. Et dans les autres projets aussi, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y avait la Star Academy.
Si, ouais. Ça me disait que c'est un projet qui remontait à longtemps.
Non, mais j'adore
le titre. C'est trop bien. Moi, ils avaient sorti un projet. Désolé de me
le faire. C'est Mouloud Mansouri qui a lancé il y a 15 ans et c'est porté par l'association Fujo. Ouais. Et donc, ils avaient fait un album de rap en fait avec en prison, alors enregistré dans une prison, ouais. Et il y avait eu pas mal de monde aussi qui s'était associé.
Ouais, il y avait Nekfeu, il y avait Soprano, il y avait la masse de gens connus. En plus, il y avait DC's.
Et ça a pas mal marché, ça a fait parler. Et puis, il y avait tout ce qu'il y a autour, quoi, du coup, sur la prison, etc. Et du coup, là, en fait, il y a le deuxième qui va sortir. Notamment, je crois que c'est à l'Institut du Monde Arabe qui organise une soirée. Je sais pas si... Moi, je sais que j'ai reçu un mail qui parlait de ça. Alors, je crois que
c'est... Et tu l'as même, t'as une espèce de... C'est pas en mode télé-réalité, mais ils sont un peu là-dessus. T'as plusieurs épisodes qui sont sortis, dispo sur YouTube et sur France/TV, où ils font pas mal de documentaires sympas, mais qui sont un peu liés au milieu urbain, pour utiliser ce terme grossier. Et ouais, tu les vois faire leurs ateliers de prison. Bah, on parlait de PLK. Tu vois un épisode où il y a PLK qui se déplace pour faire des ateliers d'écriture, etc. Vraiment, c'est un sujet qui me parle.
Ouais, très sympa. Et donc, c'est le 26 avril à l'Institut du Monde Arabe. Et il y a aussi une exposition de photos de Fifou, qu'il a fait pour à Fresnes, notamment. Donc, l'expo est à entrée libre. Le reste, je ne sais pas s'il reste des places. C'est possible qu'il n'en reste pas.
Fifou, c'est un peu le photographe du rap français. Il a fait énormément de covers. Il a un peu démocratisé le fisheye, tu sais, le fait que tu vois un peu comme dans un œil de enfin, comment on appelle le truc qui est sur une porte pour voir.
Un judas,
oui, un judas, ouais. Je pensais qu'il y avait un autre nom. Mais ouais, l'œil de bœuf, je crois que c'est ça. Mais du coup, j'ai transformé ça en œil de judas dans ma... dans ma façon de voir les choses. Et ouais, gros photographe, un gros artiste de la scène rap française. Je sais pas d'ailleurs ce qu'il a fait à l'étranger. Je sais pas s'il a shooté pour des artistes étrangers.
Oui, mais faudrait voir. Je sais qu'il a sorti, il y a des livres aussi avec ses pochettes et tout ça. Donc c'est l'occasion, si vous voulez aller voir son travail aussi. Je vous propose, là, ça fait 45 minutes quasiment déjà.
Il y avait des choses à dire sur l'actu du rap français, mais c'est cool.
Je vous propose qu'on passe au gros sujet de l'émission, qui est donc la scène rap de Bâton Rouge.
La scène rap de Bâton Rouge.
Ouais, est-ce que tu peux déjà peut-être me
Donc Bâton Rouge, oui, c'est en Louisiane, ce n'est pas un Bâton Rouge. Il y a un peu plus qu'un Bâton Rouge là-bas. C'est la capitale en fait de l'État de Louisiane. C'est pas très loin de la Nouvelle-Orléans, du coup, qui est peut-être la ville la plus connue de Louisiane, dont on parle beaucoup en tout cas culturellement, parce qu'il y a plus de, il y a un peu à la Nouvelle-Orléans, il y a un peu ce côté folklore qui est connu avec le carnaval, la musique, parce que le jazz aussi, il y a beaucoup toute une histoire qui est ancrée là-bas. Bâton Rouge, c'est pareil, c'est la Nouvelle-Orléans, mais sans le côté folklore. Il ne reste que le côté dégueulasse. Enfin, c'est un peu ça l'image que j'en ai. Je ne sais pas si vous aviez vu la série Trémé, parce que donc, Trémé, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et en fait, moi, c'est la première fois que j'avais entendu le nom de Bâton Rouge.
Ouais.
Et parce qu'ils en parlent, et en fait, ils en parlent comme le truc genre, tu vas finir à Bâton Rouge. je vais devoir migrer à Bâton Rouge, j'ai pas envie et tout.
Enfin, le drame, tu sais.
Je me suis toujours dit, putain, là-bas, ça a l'air d'être vraiment nul, quoi. Vraiment être ça a l'air de craindre, quoi. Genre, la ville où t'as pas envie d'aller, parce que c'est que. Enfin, voilà, et puis en fait. Quand tu te penches sur le sujet, il y a 30% de pauvreté, 30% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est hyper précaire. Quand tu vois les images, ça donne pas très envie non plus, c'est des grandes rues, enfin, comme on peut y voir un peu dans les suburbs américains, avec des maisons toutes délabrées qui se font à la perte de vue, des grandes routes.
Très USien, j'ai l'impression, ce truc-là de maisons qui peuvent donner des trap-outs, on en avait parlé. Mais les maisons totalement délabrées, genre cloutées devant avec une barre, t'as quand même des gens qui squattent un peu autour, espèce de végétation dégoûtante autour, genre qui est à l'agonie. Et...
Ouais, non, c'est ça, enfin, voilà, niveau végétation, c'est dégoûtante comme tu dis.
Ah oui,
enfin,
non, c'est pas beau, quoi.
Y a rien qui,
enfin,
qui
c'est, fait. C'est pas beau de décrépitude, c'est pas que c'est moche de base, tu vois.
C'est un peu lié, je pense, aussi, juste l'existence de services publics ou non, quoi. Je pense
c'est ça aussi.
C'est juste, ils mettent pas d'argent là-dedans, donc ça se.
Non mais même carrément là dans un truc en faisant des recherches, il y a t'as Bâton Rouge, on l'imagine comme un cercle, et t'as la partie nord qui est t'as une des deux parties, je me rappelle, je crois que c'est la partie nord qui est super aisée. C'est peut-être la partie sud.
C'est une partie nord, je crois.
Et en gros, ils ont un peu des counselors, des espèces de faux maires, des machins qui gèrent un peu la moitié. Enfin, le système politique et de gestion, on va dire, des organes politiques aux États-Unis est différent. Le mec voulait scinder la ville en deux et genre créer une espèce de mur un peu fictif entre la partie où il y a la population la plus malaisée et qui est où t'as beaucoup de personnes afro-américaines et la partie du nord qui est plus blanche, plus riche financièrement. Et le mec voulait créer, dire on devient notre propre ville, genre on se dissocie de Baton Rouge. Et le mec a un discours lunaire, encore une fois, chacun son opinion politique. Et genre, il y a une très belle photo de Donald Trump, genre un gros drapeau des États-Unis dans son. Putain, c'est limite un cliché le truc, tu vois.
Oui, c'est qu'on parle quand même du pays où ils ont élu Donald Trump, ils ont élu. Putain, je vais plus parler français.
Et même au niveau du climat, tu vois, moi je trouve qu'il y a un truc là-dessus, un peu. On faisait des blagues sur le Bayou, la Louisiane, tu sais, c'est genre, tu sais, un peu marécageux. C'est humide.
Ça fait humide, crasseux.
Un truc un peu de chaleur, mais genre en mode de c'est lourd, tu vois, c'est un truc pesant. Et ils arrivent, d'ailleurs, dans la musique, ils arrivent très bien à faire ressortir ce côté-là. Mm. Je pense que ça joue aussi dans le fait que, visiblement, Baton Rouge, ça soit le bagne de la Louisiane.
Un peu. En tout cas, pour revenir peut-être pour recentrer sur le rap, c'est vrai qu'il y a on sent vraiment ce côté sudiste très très fort. Moi, je trouve ça un peu marrant, c'est un peu une. Il y a un côté hyper générique dans tous les rappeurs dont on va parler aujourd'hui, c'est presque. Si tu prêtes pas bien attention, en fait, tu te dis, c'est tel rappeur, c'est un rappeur de telle époque, à tel endroit, rien de nouveau, quoi. Mais il y a ce côté-là, et en même temps, je sais pas comment m'expliquer, mais il y a un peu le côté traditionnel, mais qui est tellement poussé que ça lui donne son originalité. Tu vois, c'est-à-dire que même maintenant, on a un peu perdu certains. Tu vois, tout ce qui était Pimsy, UGK, ces sonorités-là, un peu country blues, elles se sont un peu, je dirais, perdues. Tu vois, quand t'écoutes le rap du Sud à Atlanta, trucs comme ça, à Baton Rouge, c'est encore là, vraiment, et complètement présent.
Je pense que ça doit faire partie un peu de la culture. Désolé pour les gens qui s'y connaissent plus ou qui sont touchés ou qui connaissent ça. On va englober ça sous le nom de la culture cajun, parce qu'il y a une cuisine, il y a un style de musique, il y a une manière de s'habiller, il y a des traditions. Et du coup, je pense que ce côté-là, blues, folk, c'est un peu lié aussi à cette culture cajun.
Ouais, c'est la Louisiane, c'est hyper marqué là-bas, peut-être plus que dans Géorgie ou trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment la scène sudiste pure et dure, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et je parle un peu de chez nous manquant, parce qu'il y a vraiment ce côté. Tu vois, la transition entre le rap des années 90 avec UGK, 3-6, quand tu passes après à la trap avec Gucci Mane, Jeezy, je trouve que des fois, on se dit, mais attends, c'est quoi, c'est bizarre, ça, on dirait que c'est pas tout à fait pareil. Enfin, tu vois les influences, mais tu te dis, il manque un truc. Et je trouve que ce qui manque, c'est peut-être Boozy, tu vois. Boozy, c'est un peu le.
L'émission qui essaie de doubler la série Boozy de Jeezy.
Non, mais en tout cas, vraiment, je trouve qu'il a vraiment les deux. Tu sens vraiment l'influence de No Limit, aussi de Cash Money, beaucoup de Pimsy, parce que même dans sa façon de parler, sa façon de rapper, de chantonner un peu, il a vraiment ce truc très sudiste à la Pimsy. Et puis en même temps, c'est contemporain de Gucci, de Jeezy, de Lil Wayne, sur les débuts des mixtapes, en fait, là où ça commençait vraiment à être. Il fallait inonder le marché, il fallait être présent tout le temps. Et lui, il a vraiment. Pour moi, c'est un des acteurs majeurs de cette période-là. Après Gucci et Lil Wayne, peut-être on peut dire que c'est un peu les boss à ce moment-là. Mais donc lui, en fait, il a percé à la fin des années 90 déjà. Il a percé localement. Ça, c'était pas encore une attention.
Boozy, là, c'est ça.
Oui, alors c'est vrai que je dis Boozy. En fait, il a commencé à Lil Boozy, donc B2OSIE et Lil. Donc il a commencé en s'appelant juste Lil Boozy. Son blaze va évoluer au fil du temps. Et donc, en fait, après, il se fait repérer par les majeurs et il signe un premier album en 2006 qui s'appelle Badass. Badass avec deux N, en fait, au lieu des S. Et c'est là où il pète. L'album est vraiment très, très bon et tu vois vraiment un step-up par rapport aux albums d'avant. Et puis, c'est là où il se lance dans la série de mixtapes. Donc là, il sort 3-4 mixtapes par an. Il est toujours présent. Avec notamment la mixtape The Return of Mr. Wipe Me Down, que j'aime beaucoup parce qu'il y avait le morceau Wipe Me Down qui était sorti, donc un de ses nombreux surnoms qui est toujours assez funky comme on peut le... Wipe Me Down, ça veut dire essuie-moi
le cul. C'est vrai que je suis en train de visualiser, ouais, monsieur étanche moi le derrière.
C'est ça que je trouve génial. Et du coup, voilà, donc il y a vraiment ce truc, c'est un OG à l'ancienne, il a le discours, et puis il a le discours de, voilà, d'un OG qui... Bah, la vie de gangster à bâton rouge, mais en même temps, la voix nasillarde un peu à la Pimp C, mais en même temps, voilà, les prods qui sont vraiment au goût du jour, bah, de l'époque, hein, on parle de la fin des années 2000. Et par contre, sa carrière a pris un petit coup, forcément, comme beaucoup, parce qu'il a été incarcéré en 2009. Il y a eu toute une histoire, c'est assez rocambolesque, son emprisonnement, parce qu'il a même été, à un moment donné, il a séjourné un peu, alors je sais plus si c'est quelques semaines ou voire plus, dans le couloir de la mort, parce qu'il était inculqué pour meurtre. Bon, finalement, il a été disculpé, mais il a quand même vécu quelques temps dans le couloir de la mort. C'est un peu une des histoires de rappeur en prison qui a le plus fait parler et qui a le plus... On s'est plus dit, bah, Lil Boozy, putain, il a subi, il a notamment, enfin, probablement subi du fait que c'était Lil Boozy et que c'était pas n'importe quel lambda, que c'était un rappeur connu qui voilà, dans ses textes, n'hésitait pas à en mettre plein la gueule à tout le monde et notamment à la police et aux autorités. Donc voilà, bon, ça c'est pas le seul cas, c'est pas le seul dans ce cas dans l'histoire du rap aux États-Unis, parce qu'il y en a plein. Qui ont vécu la prison et qui en plus ont subi peut-être le fait d'être connu. Mais lui en particulièrement. Et depuis, il est revenu. Alors, il a fini par sortir. Alors, après, il a été. Il avait pris 2 ans à la base. Après, il y a eu cet épisode Couloir de la mort. Après, finalement, il en est sorti. Après, il a été en condit, je crois. Et puis, il est revenu. Enfin, ça a été tout un bordel. Il a fini par sortir en 2014. Et depuis, bah, c'est devenu un peu un ancien. Donc, c'est pour ça qu'il a plus voulu s'appeler Lil Boozy, il s'est appelé Boozy Badass, du coup.
Ça me tue, ce...
Donc incroyable, incroyable nom comme tant d'autres.
Mais j'ai l'impression que c'est quand même intimement lié, je sais pas à quel point on pourra en parler un jour, je trouve ça stylé et intéressant, mais la prison et le rap, en tout cas aux États-Unis, c'est des facteurs sociologiques, hein, j'imagine, etc. Mais tu parlais de Pimp C, qui est un peu le mentor de toute cette scène, même de UGK. Bah, pareil, il s'est retrouvé en... Il a fait de la tôle et à un moment donné, dans tous les clips de rap ou les machins, tu voyais des trucs genre Free Pimp C, Free Pimp C. Non, je sais pas si ça avait
Pimp C, c'est vrai que c'est peut-être le premier pour lequel il y a eu le mouvement Free Pimp C. Il y a eu Free Boozy, hein, aussi. En plus, c'était les débuts, enfin, je sais pas si c'était les débuts, mais c'était un peu, ouais, les années Twitter où Twitter ça a commencé à prendre. Bah oui, le hashtag Free Boozy, c'est vrai que c'était très fort.
Mon média préféré. J'adore passer du temps sur Twitter.
Du coup. Lil Boozy, enfin Boozy Badass, pardon, depuis qu'il est sorti, il s'est vraiment imposé, je trouve, même s'il est peut-être moins mis en avant. Alors au début, quand il est sorti, ouais, il avait un peu fait parler. Maintenant, il fait un peu, je trouve, son truc dans son coin, même s'il dit que lui, c'est le GOAT et tout ça, mais il fait un peu le truc dans son coin et ça fonctionne vraiment bien. Je trouve que peut-être ses meilleures sorties, en fait, il y a vraiment deux Boozy, il y a le Boozy avant la prison, après la prison. Moi, j'aime beaucoup les projets qu'il fait depuis qu'il est sorti, notamment le diptyque. Hein, il y a 2 albums qui sont sortis successivement qui s'appellent In My Feelings et Out My Feelings, parce qu'en fait, il a vécu le cancer aussi, en plus de la prison. Il était encore au conditionnel, il avait le cancer, alors je ne sais plus c'est où qu'il avait le cancer, mais il a réussi à le battre. Et donc, ces 2 albums-là, il parle un peu de son combat contre le cancer, et à la fois, il fait un peu le point sur sa vie, et c'est vraiment très sympa. Je trouve que vraiment tu sens le côté peut-être parfois ce qui peut parasiter un peu les parce que c'est un peu une obsession, ils veulent être au top, ils veulent être les boss du rap game comme on dit, tu vois, mais là il fait un peu le truc, voilà, il a besoin de le dire, il a besoin de le faire, il y a un côté un peu ok c'est bon, là j'ai juste envie de faire ça sans forcément avoir la prétention de dominer le terrain.
C'est libérateur en vrai, je pense, dans la parole, de parler des maladies, vu que c'est un milieu un peu très rude, assez violent, etc. Et le fait justement de s'ouvrir, déjà juste dire in my feelings, de dire en fait je vous parle de ce qui est à l'intérieur de moi, de plus être dans cette compétition, mais de se dire en fait je veux juste faire mon truc et voilà. Et moi je trouve que après sa sortie de prison, justement, il est grave dans cette posture de OG en mode
ouais, c'est ça.
C'est bon, genre j'ai dans le fond plus rien à prouver, je me suis tapé une sale maladie, la prison, genre le sort médiatique, etc. J'ai assez vécu de choses avant. Maintenant, je suis un OG, genre, laissez-moi tranquille.
Ouais, il fait un peu vraiment, il se laisse aller, il se laisse faire en fait ce qu'il a envie, ce qu'il fait kiffer. C'est aussi le cas dans une. Il sort quand même 3-4 projets par an, enfin, moins ces dernières années, mais entre 2015 et 2020, il n'arrête pas. Moi, il y a un projet que j'ai envie de citer, c'est quand même Boozy Blues Café. Donc, il fait un projet vraiment blues en fait. et ça marche plutôt bien. Enfin, en fait, c'est, je trouve ça super cool qu'ils fassent ce projet-là. Bon, c'est pas, peut-être pas, je préfère quand même quand il rappe, en fait, c'est pas aussi bien que s'il rappe, mais je trouve ça hyper cool qu'ils se permettent de faire ce genre de projet-là. Et puis, il y a vraiment, tu parlais, tu vois, de la culture cajun, il y a vraiment le côté Zydeco, tu vois. Le Zydeco, c'est un peu le blues de la Louisiane avec l'accordéon. Puisque la Louisiane, c'était un État français, qui avec des colons français à l'époque. Donc c'est cool, je trouve ça hyper sympa de voir cette ambiance-là qui est transcrite dans ce projet-là. Donc voilà, je conseille la discographie. Il y a plein de choses à y trouver chez Bouzy. Ça, c'est un peu vaste, mais il y a pas mal.
On n'a pas précisé au début, mais on fera peut-être une playlist aussi de. Parce que comme là, il n'y a pas
forcément faire, c'est vrai, ouais.
Qui est balancé dans l'émission, peut-être quand même orienté vers quelques sons
carrément.
Pour faire découvrir, ça peut être bien. Et on
carrément.
Sortira ça après l'émission.
Donc voilà, donc Bouzy, il est toujours en activité, il a sorti un album en 2022 qui est toujours sympa, il faut aimer quoi, mais il est dans sa lancée, et après voilà, bah, je pense qu'il continuera, et je vous invite surtout à écouter quand même tout ce qu'il a fait, en tout cas une partie, et effectivement on mettra des sons pour orienter. Donc ça, c'est vraiment la grosse tête de Bâton Rouge, un peu peut-être le nom le plus mythique. Il y en a un autre qui est sorti, qui a commencé à popper au début des années 2010, c'est Kevin Gates, autrement dit Kevin Porte.
Kevin Les Portes, visiblement, incroyable.
Qui lui aussi, moi je trouve, a ce côté vraiment croisé des chemins entre un certain traditionalisme, et en même temps c'est assez novateur. Quand il sort ses premières tapes, il a vraiment un run incroyable. Entre 2013, il y a la première tape qui s'appelle Luca Brasi. Enfin, c'est pas sa première, mais c'est le premier opus de la série, puisqu'il en a sorti plusieurs. The Luca Brasi tape, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, t'as Luca Brasi 1, Luca Brasi 2, et t'en as une autre entre les deux, jusqu'à son premier album qui s'appelle Isla, avec le tube Two Phones, qui avait superbe.
Je suis passé à côté de
Kevin. Super bien marché. Et lui, c'est pareil, en fait, c'est une sorte de rappeur-chanteur. Donc il fait vraiment les deux, il a une grosse voix très imposante, et en même temps il se livre beaucoup, il a le côté vraiment peut-être même ce qu'il lui reprochait maintenant, c'est que sur certains projets c'est presque trop, tu vois, c'est presque trop, c'est devenu le rappeur sentimental, tu vois. mais en tout cas voilà, sur ces années-là, 2013-2016, c'était incroyable. Enfin, les projets de Luca Brasi 1 et 2, c'est de la bombe, franchement. Ça dépote. Bon, après, il y a quand même une vingtaine de morceaux, c'est toujours pareil, il y a des petites irrégularités, mais ça envoie du lourd. Et pareil, je trouve que ça reste cohérent, en fait, dans l'évolution du rap à Bâton Rouge. Entre voilà, Bouzy, Kevin Gates, il y a vraiment toujours ce même feeling, en fait, d'entre-deux et de traditionnalisme qui passe bien, quoi.
Ok. T'avais d'autres artistes à nous.
Bah, après, voilà, ça, c'est vraiment les têtes d'affiche. Après, il y a le. Troisième grosse tête qui pop fin des années 2010, c'est NBA Youngboy. Je pense que je vais plus laisser Momo se focaliser sur lui.
Mais c'est surtout que, pour être transparent, moi, j'avais entendu le nom, j'avais un peu découvert, mais c'est le genre d'artiste. Moi, j'ai un peu fait mon réac. Je me suis pas pris l'illusiver toute cette clique-là. Genre, je commençais à péter un câble en me disant c'est bon, je suis trop vieux pour écouter du rap. Genre, je suis pas ou j'arrive pas à me mettre à la page et. Ce qui m'a permis de me recentrer sur d'autres choses, d'ailleurs, musicalement. Mais du coup, là, pour l'émission, entre autres, j'ai grave investigué sur le gosse. Je pensais pas du tout qu'il était aussi connu, c'est ce que je vous disais dans l'après-midi.
Je crois que c'est le recordman, alors je sais pas si c'est encore le cas, de morceaux au-dessus des 100 millions de vues sur YouTube.
Alors, je te crois sur parole, parce qu'il fait partie des rares rappeurs, pareil. Enfin, le mec qui a battu Drake sur des premières semaines, sur Loverboy. Oui, on parle quand même de Aubrey Graham, qui est quand même genre le saint patron du rap game canadien et US. Mais ouais, genre, il est archi connu. Enfin, genre, c'est une star. Il, genre, full stream, full album, platine, gold.
En France, il a pas.
Non, effectivement, en France, il est pas aussi. Enfin, quand on dit que c'est une star nationale, c'est vrai que ça peut étonner.
J'en ai pas compte de la répercussion du. Enfin, ouais. De sa notoriété, en tout cas, nationale.
Et... Oui, je crois que là, enfin, tu vois, je te parlais des 100 millions de vues sur YouTube, mais je crois que là, j'ai vu un truc passer comme quoi il en est à son 96e titre dans le top 100 du Billboard. Et que ça sera sûrement le plus jeune artiste à atteindre les 100 morceaux. C'est assez énorme.
Tu l'as dit plusieurs fois, on parlait d'hyper-productivité. Lui, c'est le cas, il sort des. Genre, à un moment, tu vois, moi, ça a tendance à me décourager aussi de me dire je préfère quelqu'un qui est difficile d'accès, mais qui a peu d'œuvres. Et je me dis, bah vas-y, je vais me mettre de... Enfin, je vais prendre du temps pour entrer, m'approprier le truc, aimer ou pas. Que quelqu'un qui a genre 150 000 trucs, tu vois, j'adore Gucci Mane, mais si je devais débuter là et commencer à écouter maintenant, ou même LK, je deviendrais zinzin, genre je pourrais pas, je me dirais, il y a trop de trucs, il faut que je recommence au début pour capter l'évolution.
Ouais, t'as l'impression d'être au pied d'une énorme montagne,
ouais,
un énorme
mur, exactement,
et tu te dis,
ça.
Bah, comment je vais faire pour rattraper
Et ça me fait ça pour d'autres œuvres, hein. C'est pas que de la musique. Du coup, j'ai essayé, j'ai pas tout écouté, je pourrais pas mentir là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses qui sont en plus pas toutes bonnes à prendre, je pense. Et ça va. En vrai de vrai, ça va, je m'attendais genre à un carnage, mais enfin un carnage dans le sens c'est de musique fast-food dégoûtante, mais...
Bah, moi, tu vois, c'est vraiment... Je trouve encore une fois, c'est pas pour forcer un peu l'angle que je veux donner, mais moi, la première fois que j'avais écouté, je m'étais dit, mais c'est vrai, c'est ultra générique.
Ouais, oui,
comme on en a parlé tout à l'heure, c'était quoi, 2016-2017, qu'il a commencé. Putain, la première fois que j'écoutais ça, je me dis, mais attends, mais Young Thug, ça fait déjà 5 ans qu'il est là, pourquoi tu fais ça, enfin, tu vois, c'était vraiment, genre, je voyais rien de nouveau. Et en fait, bah, c'est vrai qu'en réécoutant, tu vois un peu la touche, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, je ne vais pas forcer, mais le côté traditionnaliste, mais en même temps, bah, ça reste novateur, enfin novateur en tout cas moderne. Quoi.
C'est moderne à coup sûr, et en vrai de vrai, ce que disait Jojo, là, si tu l'écoutes au début, tu dis, ce mec vient d'Atlanta, il vient de... Enfin, il peut venir de n'importe où et sûrement pas de bâton rouge. Mais en tout cas, j'ai quand même globalement kiffé, ça va. Je dirais pas que c'est mon artiste kiff et que... Enfin, je pense que j'aurais toujours du mal à me faire un peu... En fait, pour moi, c'est le gap, c'était Young Thug. Et depuis, c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a masse d'imitations. Et NBA, il est là-dedans aussi, dans le mélodieux, dans le fait de rapper de manière très accélérée. Tu sais, il change de rythme, il pousse... Genre trois mesures en aigu, il repart. Et par contre, c'est très virevoltant, donc tu t'ennuies pas trop quand tu l'écoutes. Je trouve ça.
Non, c'est assez c'est divertissant. Comme,
ouais.
Après, ce que je trouve notable quand même, c'est que lui, comme les autres en fait que j'ai cités, ils ont vraiment leur producteur maison. En fait, c'est pas. Enfin, tu vois, pour le coup, je trouve que ça sonne pas tellement Atlanta. Enfin, peut-être lui dans sa façon d'utiliser l'autotune et tout ça. Mais dans le feeling global, les prods font que je trouve que t'as un feeling un peu différent. Ouais. T'entends beaucoup en fait le côté blues, presque, j'ai envie de dire, parce que dans ces producteurs il y a tout le temps des sons d'orgue ou des sons de guitare, tu vois, souvent t'entends un peu dans le fond, alors c'est un peu noyé peut-être avec la 808 quand même, mais il y a un peu ce côté vraiment traditionnel, je trouve, qui ressort et qui est intéressant finalement, enfin ce qui le rend, je trouve, intéressant aussi, et ce qui rend ces projets cool,
je trouve. Même globalement sur la scène, je trouve que, enfin, l'artiste, quand j'ai un peu fait la rétrospective de tout, bah, j'ai réécouté du Boozy, Kevin Gates, j'étais passé à côté, donc voilà, j'ai écouté, mais sans maîtriser le truc. Pareil pour NBA, d'autres personnes qu'on va juste citer pour que vous ayez une idée de l'envergure quand même, même si ça reste qu'une ville. Je trouve qu'il y a un côté quand même très proche de la Nola Bounce et de Manny Fresh, et de... j'ai décidé d'oublier tous les noms. Hot Boys, ils sont
ouais,
quatre.
Oui. De Juvenile,
merci beaucoup. C'est dingue, genre mon cerveau est une passoire actuellement, je le retiens au canon. Et il y a un truc, je sais pas, il y a dans la
sonorité. En plus, il a sorti, on en parlait aussi, il a sorti un projet avec Birdman.
Oui.
Donc oui, voilà. il est clairement, c'est clairement ses influences premières, je pense.
Il y a un côté très crunk aussi, mais c'est parce que c'est très agité en fait. C'est pour moi, en tout cas, la marque de musique, le truc aussi un peu spécifique. Il y a toute la culture cajun, le côté blues, le côté sudiste. Où c'est une identité de dingue. Je pense qu'on pourrait faire 10 émissions juste sur la culture sudiste ou même de la Louisiane. C'est assez incroyable. Il y a une patte. Et je trouve, tu vois, par exemple, que Deeply Rooted, au-delà même de notre émission, avoir des concepts spécifiques sur une ville comme Baton Rouge, par exemple, ou sur la Louisiane, c'est ultra pertinent parce que c'est tellement spécifique et en dehors de ce qui se fait sur le reste de la map ou dans d'autres types de... Même du rap européen, du rap français, que ça mérite, en fait, qu'on en parle, qu'on cite les spécificités de ce qui s'y fait. L'autre point que je voulais aborder au-delà de ça, c'est... Ça reste quand même une scène foisonnante. C'est vrai que quand j'y pensais, je me suis dit, bon, on a fait plein de villes. Est-ce qu'il y a tant de choses à dire que ça sur Baton Rouge? Oui, il y a une tonne de rappeurs. Pour revenir rapidement sur NBA, pour moi, il était connu que pour ses frasques. C'est marrant, je l'ai vu en interview.
Et entre... Il est de temps.
Ouais, il est de temps. Il est assez mystique, lunaire. Il a des albums où, pour le coup, pour joindre le côté blues... Il parle de la mort de... Parce qu'il a vraiment eu un parcours compliqué, genre il est orphelin, Son père a fait de la prison, enfin, il est dû s'y retrouver dehors à dealer, à faire de la merde assez tôt, genre à 12 ans, tu vois. Enfin, tu t'imagines, à 12 ans, toi, t'allais acheter des sucettes à l'épicerie. Lui, il était déjà confronté au crack et à des trucs dans le genre. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu le mythe de l'enfant ou de la personne qui s'est faite toute seule aux États-Unis. Mais tu le vois en interview, c'est assez lunaire, c'est avec BET, où il dit bah, en fait, moi, je fais confiance à personne, les gens me font peur, il est archi introverti. Et en même temps, la page d'après, tu lis NBA attend son 11e enfant, tu vois, alors qu'il a 23 ans. Et il y a une espèce de, pas de diptyque, mais d'opposition entre le NBA que tu vois dans les journaux en mode c'est une rap star qui est dans l'excès, dans les conneries, et comment il peut être en interview ou sur ses disques où il est genre ultra inspiré, ultra libéré, et il va chantonner et faire plein de trucs différents.
Je pense qu'il faut peut-être qu'on précise ce que veut dire NBA, parce qu'on l'a pas dit.
Never c'est broke
pas,
again.
Voilà, c'est ça pas National Basket Association.
C'est vrai que quand c'était arrivé, c'est pour ça que je te posais la question de NLE de chopage, je me dis, mais c'est les rois des acronymes, et j'avais juste noté.
Non, mais aussi YNWA, il y a un milliard maintenant des trucs. Hein. Bah, YSL avec Young Thug, Youngston oui. Life.
Non, mais j'ai noté des noms. Il y a genre HD for President. Tu voulais dire quelque chose ?
Non.
Ah ouais, non, mais genre HD for President, Carlos de la 70e rue, genre 17th Street Carlos. J'en étais plein, tu vois. Genre WNC Whoop Busy, NBA Michi. NBA Michi Baby, tu vois. Enfin, BZ, genre, oui, c'est quand même les rois des blazes un peu.
Tu disais, en France, on en a des un peu particuliers. Ah, mais les touristiques sont quand même beaucoup plus nombreux, donc peut-être qu'au bout d'un moment, bah.
Oui, mais je sais pas jusqu'où ils vont arriver. Ils vont commencer à faire des alphabets étrangers. Ils vont, enfin, mais c'est. En tout cas, la scène est quand même bouillante. Elle n'a pas de répercussions au niveau national ou même international.
Ouais, en dehors de NBA, quoi. Mais.
Ouais, alors, en dehors de lui et peut-être Bouzy, mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, ce qu'on disait dans d'autres émissions, c'est qu'ils sont tellement nombreux, même sur un État ou une ville. Il y a quand même genre 400 millions d'habitants sur le pays. Il est gigantesque. Enfin, c'est assez zinzin. Que tu peux juste exploser localement dans ta ville, vendre 100 000 mixtapes et en fait tu peux te contenter de ça et t'es très bien. Et un autre artiste pour le coup en écoutant que j'avais bien aimé qui s'appelait Mista Kane, je vous invite à vous intéresser à sa discographie en tout cas.
Tu t'en as parlé, ouais. J'avais jeté une oreille, c'est vrai que j'ai écouté un morceau qui était hyper cool.
Bah je sais pas,
ça fait un moment qu'il est là de ce que j'ai pu voir, ça fait un.
Mais j'étais passé totalement à côté.
C'est pas forcément un rappeur qui est mis en avant. Là, peut-être, moi, si j'ai un nom à citer qui est pas mal mis en avant, c'est Fredo Beng.
Ouais.
Mais c'est le seul que, voilà, qu'on peut-être nationalement a un peu. C'est devenu un rappeur trap à suivre pour les aficionados de la trap. Mais sinon, non, après, c'est vrai que ça reste. Enfin, voilà, faut aller chercher spécifiquement. Ouais, tu veux des rappeurs de bâton rouge, mais sinon, c'est sûr que, y en a beaucoup, mais nationalement, ils sont pas forcément connus.
Non, c'est pas une scène où, même peut-être politiquement, on en parlait, des institutions et tout, c'est peut-être pas une ville. Je sais que sur la Louisiane, enfin la Nouvelle-Orléans, il y a eu tout ce truc avec Katrina.
Un peu laissé pour compte aussi, je pense que ça devrait jouer dans l'image nationale et dans les. C'est pas forcément là où il y a plus de lumière.
On en parlait pour Memphis, qui était un peu la sœur pauvre, en tout cas en termes de reconnaissance dans ce coin du sud, et tous les artistes, par exemple 8Ball et MJG, qui étaient partis. À Houston, c'était là, enfin une espèce de cadet un peu oublié du Tennessee. Ils sont tous barrés de Memphis parce qu'ils étaient quasi sûrs que c'était impossible de percer là-bas et de se faire entendre alors qu'ils étaient archi talentueux. Je sais pas si c'est le cas de Bâton Rouge par exemple à.
Lil Boozy maintenant il est à Atlanta. Il habite plus à Bâton Rouge.
À Atlanta, Drake est là-bas aussi.
Bah après, je sais qu'après Lil Boozy, c'est tellement quand tu regardes un peu les vidéos qui retracent notamment ses déboires judiciaires, c'est aussi que en fait, je pense qu'il a tellement de souvenirs hardcore à Bâton Rouge qu'il a envie de. C'est ça, quoi.
Et un autre point dont je voulais parler, c'était de la danse, mais je sais pas si en termes de. Si tu préférais qu'on en parle un peu après.
Non, vas-y.
En fait, on parlait de la culture cajun, ce mouvement, de cette identité très prégnante qu'il y a à Bâton Rouge, mais ils ont aussi un délire. Dans une ancienne émission, quand on vous parlait de la Nouvelle-Orléans et un peu de la Louisiane, ils ont la bounce music, qui est. Dans le sud, en tout cas, globalement, que ce soit à Bâton Rouge, Atlanta, Memphis, Houston, etc. Il y a une très forte culture des strip clubs. Et c'est un peu le baromètre de ce qui va fonctionner musicalement, parce que c'est très porté rap et c'est aussi dans des quartiers où on écoute beaucoup de rap. Et c'est un peu le baromètre de ce qui va fonctionner dans le futur, et même si ça fonctionne en fait ou pas, tu vois, ça peut être passé dans un strip club, on s'enjaille dessus, c'est bon, ça va être un hit. Il y avait la bounce Il y avait le crunk, la crunk musique à Atlanta, où c'est très énergique, c'est fait pour danser, se dépenser, boire de l'alcool, partir en vrille. Il y avait la bounce qui était genre très, très rythmée aussi. Et bah, Bâton Rouge, c'est ce qu'on appelle la jiggy music. Disons, bah, alors la jig aussi, c'est carrément une danse qui existe à part entière, qui n'a rien à voir avec le rap. Et donc, y a, en fait, je me suis dit, c'est zinzin parce que t'as des danses à peu près pour tout. Et on se demandait même si en fait, c'était pas devenu un outil de promo, tu vois. Parce que t'as la, c'est une musique où en fait, tu t'agites partout. La jig,
ah bah, c'est-à-dire avec genre, TikTok, sautiller. C'est sûr qu'en plus, ouais. Ça va. D'autant plus l'être, je pense.
Oui. Enfin, pas de TikTok, Doug Bassener.
Non, je suis d'accord. Mais après, quand tu réfléchis, ça a toujours existé aussi des morceaux qui se basaient sur une chorégraphie juste de ce morceau-là qui fait qu'il devient mythique, alors que sans ça, peut-être qu'il serait passé à la trappe.
Ah bah oui, c'est genre maintenant, on est beaucoup porté sur du visuel. Du coup, c'est limite le triptyque. Une chanson, enfin, il y a un truc sur une plateforme de streaming, un clip, une danse ou un délire autour, et sinon ton son, bah, il sera découvert dans 6 mois, et dommage pour les rotations radio. Mais en tout cas, pour le côté de Jiggly, c'est n'importe quoi.
Par exemple,
tu veux que je fasse une démonstration? Non, mais c'est vraiment genre les gens sautent partout. Enfin, Jiggly, c'est le Jiggly, tu peux le rapprocher le plus de, en français, genre de sautiller, tu vois, genre un truc de sautiller ou qui a des mouvements frénétiques. Et ils s'agitent, et c'est leur clip, c'est n'importe quoi, tu vois, genre limite le mec il rappe pas dans le truc, et t'as des gens un peu autour, et. Ils sont là en train de. T'as un clip avec Bouzy d'ailleurs, avec où tu sais, il y a plein d'enfants qui sont là en train de danser dans les. Dans... devant ces maisons abandonnées de Bâton Rouge. Et en fait, ça c'est suffisant, c'est mis dans un strip club, tout le monde est content, bah, les gens font leur travail dessus. Ça devient le genre le titre connu du moment, tu finis en radio. Et donc ils ont tout un délire autour de cette danse. Il y a un groupe qui s'appelle The Jiggleators, qui est début des années 2000, qui a fait sa carrière que là-dessus, avec des sons genre Jiggle Jiggle, tu vois, genre. Enfin. Qui t'invite à jiggle, du coup, et faut savoir que dans cette culture-là, bah, tu te drogues en même temps. Et c'est un mouvement qui est très associé à l'espèce de truc alternatif de se droguer, prendre des pilules, des drogues de synthèse, et danser en boîte ou dans des strip clubs. Et je parlais de ça aussi parce que, bah, on parlait des pas de danse, mais t'en as plein, t'as le néné de Super Bad Watch Me, néné, t'as le Lashmurda Dance de Bobby Shmurda, c'est un mec de New York. Et en fait, là, on pourra en parler dans un autre sujet, mais t'as plein de pas de danse ou de styles de danse, sans parler du hip-hop, parce que c'est une discipline et je m'y connais pas du tout pour en parler, c'est très technique. Et... mais t'as des danses un peu partout. T'avais la bounce, t'avais le creep walk qu'il y a à Los Angeles, qui est une danse un peu de gangster pour se reconnaître et machin, et c'est très typique.
C'est vrai que tu dis qu'il y a des styles de danse au sens large, hein, dans... des sous-catégories de la danse hip-hop, ça c'est sûr. Et après, il y a carrément des danses.
C'est des danses locales,
musique. Une
après, la danse hip-hop, c'est on parle de danseurs professionnels en général.
Ah oui, non, mais ça.
Alors que là.
Pas forcément pro, je veux dire, des gens qui prennent des cours, etc. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, mais je veux dire, pour moi, ça n'a rien à voir dans le sens où ça, c'est des danses de teuf, tu vois. Ou de...
Bah, genre, ouais, tu vois, du hip-hop, du breakdance, genre, c'est pour moi, c'est classé dans des danses par des danseurs. Enfin, le peuple le fait aussi, mais quand je dis le peuple, c'est pas des pros en tout cas. Mais c'est professionnalisé. Là, genre, la Jiggly, peut-être.
Oui, mais est-ce que les pros, tu penses pas qu'ils sont
des jigglers professionnels?
Des jigglers professionnels, c'est possible.
Je pense clairement que, par exemple, j'en sais rien, toutes les musiques dont tu as parlé, même Crunk et tout ça.
Oui, bah oui.
En vrai, bah si, je veux dire, c'est fait et ça devient un phénomène tellement que c'est sûr qu'après, ça
c'est repris par des pros.
Dans les codes de la musique.
Si, ça c'est possible.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Si, parce qu'on parlait du Doogie, d'une danse de la West Coast, un peu, là, le Doogie. Et en fait, je regardais, t'as le clip qui s'appelle Teach Me How to Doogie, mais t'as aussi des danseurs pros qui t'apprennent à danser le Doogie, tu sais, en faisant des petits mouvements, et genre, ils incorporent ça dans des chorégraphies de danse. Donc, c'est là où je suis
en même, tu dis le rappeur, genre, c'est un Soulja Boy qui fait ça, tu sais pas, est-ce que c'est lui dans sa tête qui a fait un truc débile, ou non, il y a peut-être quelqu'un derrière qui juste, il y a eu du taf derrière, tu vois ce que je veux dire?
Non, oui, c'est
ça. Ça peut pas sortir de nulle part non plus, et en vrai, bon.
La Shmurda Dance de Bobby Shmurda, il est dans un clip, ils sont tous fait arrêter à cause de ce clip parce qu'il name drop des gens qui tuent à New York, des gens relativement dangereux. Il fait sa danse, le truc dure 3 secondes, il fait un mouvement qui est même pas un espèce de truc de danse, c'est repris, il y avait même pas de
TikTok. Il y a une différence entre une chorégraphie et un gimmick.
Lui, il est plus sur un gimmick, ouais. Je pense que la Jiggly, c'est pas un gimmick parce que ce serait le réduire.
Comme Niska, il y a eu aussi.
Méchant.
Ouais. Ça arrive souvent, après c'est sûr qu'il n'y a pas toute une chorégraphie forcément par rapport à ça, et encore si, parce que tu vois après dans les... c'est notamment dans les...
Les battles.
Dans les humoristes, ouais, ils reprennent et qui font de la parodie, je veux dire, on dit sur...
Ouais.
Je sais pas quoi, tu vois, ils arrivent à te faire comprendre, ok, là tu dis, ah ouais, en fait, tu comprends que c'est co-baladé, Niska, etc. Et juste à travers la chorégraphie, et c'est ça qui est...
Non, non, complètement. Ah, mais je trouve ça hyper intéressant de se dire que, bon, déjà, t'as des... Encore une fois, on écarte le hip-hop globalement, mais t'as des styles de danse qui sont locaux, et t'as des mouvements, genre en infra ou en intra, je sais pas comment on pourrait dire, qui sont, là, c'est éphémère, et ça représente un style de musique dans un courant musical, c'est genre en termes de subdivision, de sous-genre, c'est insane, mais à quel point c'est riche, et c'est des appropriations, je pense que c'est aussi une manière de s'approprier le truc, et de se dire, on a notre danse, et en fait, ouais, on est écouté par 15 000 personnes, 10 voisins, 10 personnes sur YouTube et machin, ce qui ne fait pas 15 000 mathématiquement, bien évidemment.
Ça fait partie un peu des propriétés, ouais, du rap et des rappeurs en général aussi, de vouloir toujours représenter un peu là d'où ils viennent. Et les danses, bah, du coup, c'est pareil, c'est, du coup, ça va permettre à tout le monde de s'identifier, de dire bah, ça, c'est nous. Les gens qui viennent de là-bas sont très contents.
C'est donc, dans la culture du battle.
Entre le gimmick on parlait ou des signes, de coups d'appartenance, etc. Des fois, la danse se mélange à ça aussi. Donc,
Pour le creepwalk par exemple, pour les trucs ils font leurs signes, j'en referai pas là parce que je sais pas les faire, et t'as le creepwalk en plus que tu peux voir, genre Snoop, WC, peut-être Night Dogg, paix à son âme, en train de danser, mais qui est un vrai code de la rue, quoi.
Ce que je propose, c'est que limite tu postes un clip sur les réseaux
de moi qui danse.
Non, mais toi, de gens pour ce que ça donne. On reparlera danse, c'est sûr. L'occasion d'un gros sujet de petites rubriques. Vous avez fait le tour, je pense, sur la scène.
Ouais, on a.
C'est pas mal, ça donne un bon aperçu. On vous balancera donc la playlist, le clip. N'hésitez pas, je remercie Ushibili qui a follow la chaîne.
C'est bon, Ushibili, que je ne sais pas qui c'est.
N'hésitez pas si vous avez aussi
merci des à toi.
Questions pour aller prendre en fin d'émission. Je propose qu'on termine un petit peu en détente. En détente pour moi, mais pour vous.
C'était en totale détente, hein, j'ai absolument kiffé
ce moment-là. C'était la partie plutôt sérieuse, on va dire, qui fait l'ADN de Diplurotide. Mais maintenant, je propose qu'on se fight et qu'on rentre dans le vif du sujet.
Promis, pas de violence, je vis.
C'est donc le bif de l'émission.
Serrer la main.
Donc ce sera
un bon match.
Bon courage.
Je vis. Ce que je vous propose donc, vous allez chacun à votre tour lancer la roue. Vous allez tomber sur un numéro entre 1 et 10. La moitié des questions, c'est du rap français, l'autre moitié, c'est du rap US.
Je peux pas choisir avant.
Et non, et oui, mais bon, tu verras, il y a différents niveaux de difficulté. Sachant qu'il y a des questions, vous allez tomber dessus, ça va être des défis, c'est-à-dire je vais vous donner 4 indices, et le premier qui trouve remporte le point. Et il y a des questions où c'est des questions simples, vous pouvez pas remporter le point pour l'autre. S'ils trouvent, tant mieux. Sinon, tant pis.
Très bien.
Et donc, ce sera à chaque fois. Il y a des albums, des rappeurs et des groupes. Et à chaque fois, pareil, c'est basé sur 4 indices. Je propose que. Qui commence ? Qui veut commencer ?
Désolé, on se sert de ce qu'il y a sur le. Est-ce que tu nous autorises à faire un pile ou face avec,
avec ça ?
Tu prends le Sony ?
Oui.
Oui. Oui, tiens, ça c'est.
Oui, bah ça va être pile.
Tu prends le Sony. Bah tiens, c'est toi le juge, on va faire parce que.
Sony,
c'est Jojo qui commence.
Sony Digital.
Ah. Et c'est Momo qui commence.
Il y avait écrit Sony, non, sur toi. Écrit Sony sur.
Trafiquante.
Donc nous allons lancer la roue. Je propose que tu veux la lancer.
Fais-la.
Je vais lancer la roue. Ouais, tout de suite. Alors pourquoi on n'a pas le son ? Ah, on n'a pas le son de la roue, je mets le son de la roue.
7, 7, 7, siété, pas du tout, c'est le numéro...
C'est le numéro 2.
On adore.
Le numéro 2, la question numéro 2.
Faut pas que je regarde, du coup, je me penche un peu.
Plutôt, question rap français, donc ce n'est pas une question défi. Donc le premier, bah non, j'ai pas précisé, le premier à 3 l'emporte.
Très bien.
Si vous êtes à 2...
Mais attends, du coup, c'est que Momo qui répond là.
Bah voilà, c'est ça. Là, c'est pas une question défi, c'est une question simple. Alors, dans les années 2000, quel rappeur
s'est auto-proclamé,
alors il faut les donner dans l'ordre, le duc, le king et le pape de Boulogne.
Alors, le duc, c'est Zoxy, je pense que c'est le premier qui l'a fait. Le pape de Boulogne, c'est Danny Dan, je dirais en deuxième. Et le duc.
Alors, attends, redis-moi, il y a le. Donc,
non, attends, je répète,
le
pape.
Le duc, le king et le pape.
Alors, le king de Boulogne, c'est Zoxy, pardon, c'est le premier qui a dû le dire. Le pape de Boulogne. C'est Danny Dan, et le dernier qui est le duc, parce qu'il restait plus que ça, il aurait pu dire président de Boulogne, mais c'est Booba.
Je crois qu'historiquement, c'est plutôt Booba qui s'est déclaré, non
Non, pour moi, Danny Dan, il disait déjà pape de Boulogne.
Je crois que à peu près, ça a dû arriver à peu près au même moment, c'est parce que il y en a un qui a dit ça, que me semble, de ce que j'ai compris.
Que dirait Liam, du coup, même s'il n'est pas de.
C'est pas un MC, lui, il s'en fout.
Oui, il s'en fiche.
Donc, Un point pour Momo.
Merci. J'ai espéré. Quand t'as commencé en disant le duc Sezoxy, tu t'es trompé.
Non, mais oui,
je me suis dit, ah, c'est bon.
Le pape de Boulogne, c'est PLK.
Mais t'aurais pu la trouver celle-là en français. Je pense que c'était jouable.
Ouais, j'aurais pu, mais non, j'avais pas forcément les réponses.
À toi, je lance la roue.
Allez, vas-y, c'est parti.
Je lance la roue. Alors, si tu retombes sur le numéro 2, on relancera bien sûr.
Je vais tomber sur le numéro 2. Vas-y,
hein, on va juste relancer.
Tu veux reposer la question.
De supprimer le
ouais, c'est de bien avoir un truc qui permet de faire ça. Alors, quand ça tombe sur le 2, je quitte l'émission, j'arrête tout.
Où est truqué, la
le numéro 1. Toujours sur les mêmes numéros.
Question numéro 1, encore à français, c'est une question simple. Donc c'est pas un défi. Donc, c'est bien.
Ouais, là, pas le droit de répondre, c'est pour jouer.
Alors, question pour les purées, justement, ça tombe bien.
C'est tout ce que tu es, je veux.
Alors, comment s'appelle le groupe dans lequel a évolué, on en a parlé tout à l'heure longuement, notre ami Al Capote, groupe qu'il intègre en 98.
Unité de feu.
Voilà, lui de Zef, Katana, El Cap. Ouais, ben oui.
Avec Katana, oui.
C'est ça, j'avais pas de point. Ok, très bien. Un partout. On verra le niveau de difficulté, là, ça va, vous en sortez bien, je trouve.
Si ça reste à ce niveau-là, ça devrait être.
Oui, clairement, là, on devrait s'en sortir.
Le mot qui tombe des
Noébé, comme Kabé Noébé, Karim Benzema.
La question numéro 9. Ah, parfait. C'est un défi rap US. Donc je vais donner, il y a 4 indices, je vais les donner au fur et à mesure, et le premier qui trouve...
Vas-y.
Ah, un défi. Voilà. D'accord.
Sachant que si vous donnez un truc, c'est l'autre qui prend la main après.
Si par exemple, ouais,
si tu donnes une réponse,
3,
tu peux pas donner une deuxième réponse, okay. Bah, tu peux pas flouder. Ouais,
soyons civilisés.
Alors attention, je suis né en 1977 à Beverly Hills, et mon vrai nom est Alan Daniel Maman. C'est le premier indice.
Okay. Mon vrai nom est Alan Daniel
Maman.
Né à Beverly Hills, on est en 90
77.
Ah ouais.
Je me fais appeler Mudfoot à Los Angeles.
C'est écrit comment Mudfoot?
M-U-D-F-O-O-T.
Ah, Mudfoot. Ok.
Mudfoot.
DJ Quick.
J'ai pas écrit. Non.
J'ai donné une réponse et il y a que Jolie qui va prendre. Ok.
77, t'as dit.
Ouais. Ok. Donc c'est à toi qui récupère le truc.
Bah ouais, t'es ultra, ton troisième indice.
Je peux pas attendre ton troisième indice.
Si,
je te donne mon troisième indice, c'est juste que je n'avais pas noté la réponse.
Pour le moment, j'ai rien, mais...
Il collabore là longtemps avec les groupes Mobb Deep et Dilated People.
Oh.
Ah, Murs? Non, c'est pas ça. Comment... Ah,
non.
C'est de... pas Murs, je pense que c'est DJ Muggs. Mais si... Ah.
Ah, Murs, il a... Ouais.
Ouais, mais...
Ah non, mais non.
Non, vas-y, je vais donner une réponse, mais je veux...
Il est, depuis 2005, le DJ... Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ce que j'ai vu, le DJ d'Eminem.
Bah, je dirais DJ Muggs, du coup, parce que je pense à DJ Babou, mais Muggs.
Ok.
M-U-G-G-S.
Ouais, non.
Alchimiste.
Oui.
Oh, mais non!
Je me suis dit, putain, il va pas le dire.
Plutôt!
C'est le DJ d'Eminem?
Bah, apparemment, ouais.
Je suis pas si fan que ça, j'ai encore des choses à apprendre. Ah, bien joué, bien joué.
Je pensais que vous alliez pas le trouver, après, je me suis dit, tu vas le trouver tout de suite. Mais...
Bah, non, parce que c'est vrai que.
Après, j'ai, c'est.
Non, mais c'est quand tu m'as dit. Quand t'as dit Eminem.
Plutôt...
Oui, il est plutôt aisé. Quand il a dit Eminem, je me suis dit, ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire. Chimiste.
Non, c'est vrai qu'il y a... Mais... Non, pour le coup, le truc d'Eminem, je savais pas, mais...
Non, on apprend en s'amusant.
Donc...
C'est la jauge de...
Ah, donc c'est moi, voilà.
Donc,
en plus.
Et c'est...
Là, tu peux gagner le 7, là.
Qui lance. Tu peux gagner le 7, donc faut pas que ça tombe sur 1, 2 et 9.
Parfait.
C'est la 6. Ah, 6. Alors, il y a des questions qui sont sponsorisées par... l'ABCDR du son, parce qu'ils font des bonnes questions. Donc,
d'accord.
Deux, trois,
c'est pas un défi, là, c'est que pour le jeu.
C'est une question, ouais. C'est une question simple.
Il
n'y a que toi qui as le droit d'y répondre.
Que toi qui as le droit d'y répondre. Et t'as le droit à, allez, on va dire...
Non, j'ai pas le droit à un joker. Faut... Je mets comme ça à rager.
Deux propositions.
Parce que là, c'est plus simple, dur, là, c'est ça.
Deux propositions. Ouais. Quel rappeur est la seule à avoir eu sa marionnette dans les Minicums? Minicums, bien sûr.
Doc Gynéco?
Non. T'as une autre proposition. Réfléchis bien, Minicums, donc série mythique.
Bah, Joe Star.
France 3.
Non.
Je pense que c'est M6 Solar.
Oui, joli. Dommage, t'aurais pu piquer le point.
Non, mais c'est pas grave. Mais oui, oui.
Moi, je suis complètement largué.
T'as pas les 7 saisons des Minicums sur France 3. Moi, je regarde ça pour m'endormir, mec. C'est
juste carrément... chercher les rappeurs connus des années 90 qui passaient à la télé. Je pense pas beaucoup, hein, mais.
Je sais pas, j'aurais cité. Enfin, si j'avais pas su, entre guillemets, je pense que j'aurais cité au moins. En tout cas, Doc, c'est sûr.
En fait, c'est le premier à 3 points.
Parce que Doc Gynéco, il est pas lui-même une marionnette, finalement.
Donc je vais qui mène 2-1 pour l'instant. Ouais, afin de respecter l'équité, je vais donc choisir de poser une question, simple à Momo.
Vas-y.
Question rap US.
Parfait.
Que peut-on voir sur la pochette de l'album I Am de Nas, sorti en 99?
Il y a une tête de pharaon ou c'est sur It Was Written? Attends, il y a la pochette où il est accroupi, il y a sa tête en... C'est bien, je connais les chansons, mais pas les noms. Ouais, j'ai une tête de... le buste de Pharaon ou de Nefertiti.
Ouais, ouais, c'est Maya, sa tête en... Enfin, je voulais qu'il me l'avait, en fait, qu'il était bien. Ça fait donc
enfin, deux, ça fait un... Là, normalement, il faudrait une question à la...
Je vous propose une question vitesse. Pour départager un défi, vas-y. un petit défi rap US.
Danser la Superman
Dance. Un défi rap US.
Ah ouais. Attention, c'est parti. De partout.
Vas-y.
Né en 96 à Brooklyn... J'ai grandi dans le quartier Bushwick.
Je suis 96
issu, ouais, je suis issu d'une mère d'origine mexicaine et d'un père d'origine portoricaine. Après une jeunesse difficile, il se lance dans la vente de Marie-Jeanne et d'héroïne et termine en prison. Malheureusement, j'ai vu, ça concerne beaucoup d'argent.
Ça a l'air d'être un chemin.
Oui, il commence à s'associer au Nine Tray. Nine Tray, c'est un sous-groupe de la prison qui est. Dépend des Bloods.
Ah, bah c'est Tekashi 6ix9ine.
J'ai pas osé le dire avant, je me suis dit, je vais attendre les
autres. En fait, quand il a dit Nine Tray, c'est vrai qu'après j'ai.
En 2017, un clip réunissant des membres des Bloods et des Crips. C'est un vrai succès. J'ai une apparence extravagante.
Leur gang.
Gagné sur Tekashi 6ix9ine.
Oui, parce que j'avoue, j'ai l'honneur de jouer jamais.
Content de ne pas avoir.
Mon honneur n'est absolument pas sauf maintenant que j'ai.
Vous remarquez que je n'ai pas fait d'indice, genre c'est un.
Tandis que Lobo, c'est un gros rat.
Issu du Pukav Gang.
Fameux gang de.
Voilà, donc félicitations, Momo prend merci. La couronne et il la remettra en jeu, ou la ceinture, on verra. Et il la remettra en jeu pour la
le prochaine. Le Bob, je remettrai mon Bob en jeu. Non, mais trop bien.
Pour tu peux garder le Bob pour la prochaine.
Il nous faudrait des buzzers, mais je pense qu'on va flinguer la table. Si
voilà, je pense un peu, là, bien sûr, on améliorera le format de l'émission. Une petite musique angoissante aussi derrière, ça pourrait être pas mal.
Freddy Krueger.
Non,
trop bien.
Tout à fait. Je vous propose donc qu'on passe à la fin de l'émission tranquillement, avec donc la partie plutôt pour. Recommander des musiques et tout ça aux auditeurs. Le Maxi Best Of. Donc chacun d'entre nous va proposer un album qu'il a kiffé, pas forcément récent, donc un morceau plutôt lui récent qui conseille aux gens et un artiste à découvrir. Voilà, Jojo, vas-y, commence peut-être.
Donc un album, bah, je vais rester sur la Louisiane du coup et sur ce dont on a parlé. Je vais proposer comme porte d'entrée dans Bouzy. L'album Out My Feelings, qui fait partie donc, du diptyque dont j'ai parlé, qui est vraiment cool. Et là, c'est plus la partie où il ne parle pas forcément de son cancer, mais il parle il fait un point un peu sur sa vie et sur ce qu'il a fait, sans être dans la moralisation, mais c'est vraiment un super projet. Un morceau récent que j'ai aimé, je vais citer YMCA de Ray Schremerd. L'album est vraiment sympa, mais il y a 2-3 morceaux qui ont bien retenu mon attention, notamment celui-là, très très sympa. Et enfin un artiste à découvrir, je vais parler de The Loopers, qui est un rappeur de Détroit du crew de Danny Brown, donc Bruiser Brigade, et ça fait déjà bien 10 ans qu'il est là, The Loopers, et là ça fait quelques albums, je trouve que c'est The Loopers, Z-E-L-2-O-P-E-R-Z. Très sympa, c'est vraiment une sorte, c'est assez hybride comme rap. Il a déjà fait des projets avec un producteur électro, je crois, donc il est assez versatile. Et le dernier album qui s'appelle Microphone Fiend, qui est très très sympa. Voilà,
ok,
trop bien. En tout cas, ça c'est pour sûr que je vais écouter The Loopers. Je vais pas faire dans la maxi originalité, c'est vrai que j'étais passé un peu à côté, alors j'écoutais et j'avais ça dans mon oreille, mais sans jamais me pencher sur le cas de Larry June, qui est un rappeur de San Francisco, vraiment en mode très laid back. Je fume des cigarettes aromatisées, et genre je suis dans ma chillance absolue. Et j'ai retrouvé un kiff des débuts de Wiz Khalifa, parce que j'avais énormément écouté jusqu'à ce qu'il devienne Wiz Khalifa la rockstar et qu'il soit plus du tout sur ce qu'il faisait au début. Cette ambiance, bah, que Currency, pour le coup, lui, genre, fait hyper bien.
Pour moi, vraiment, Larry June, c'est vraiment un Currency de la West Coast, quoi. C'est le mec qui fait tout le temps, il sort plein de projets et c'est toujours bien. Tu seras rarement surpris, on va dire.
Oui, non, c'est ça, c'est pas un kicker de ouf, c'est pas.
C'est toujours assez constant, quoi. C'est très régulier. Mais l'album, c'est avec Alchemist, hein, c'est ça le...
Ouais, exactement, de Great Escape, parce que moi je retiens surtout trois tracks dessus. T'as l'intro qui s'appelle Turkish Cotton et une autre qui s'appelle Orange Village avec Slum Village en featuring que j'ai envoyé à Doug il y a pas très longtemps. Incroyable. Enfin, dessus t'as Big Sean que je déteste et qui passe extrêmement bien. T'as Action Bronson qui, pareil, enfin. La cover de l'album, c'est une main dans un gant de cuir qui conduit une espèce de Cadillac machin, et je pense que c'est un album pour le printemps, mais. Parfait, en plus il est sorti là fin mars, donc genre tout début du printemps. Incroyable, genre c'est mon album, enfin je suis en repeat dessus, je l'écoute quasi quotidiennement en entier. Incroyable, et donc ouais, ça me permet de me prendre Larry June parce que j'ai écouté d'autres choses de lui.
Écouter Larry June en été, c'est bien.
Ouais, c'est vraiment, enfin c'est un album, enfin j'ai mis un Bob, là je ne suis personne. Lui c'est un aficionado du Bob, il fait vraiment cette ambiance très West Coast, maillot de basket, claquettes, chaussettes, tout ce que j'aime dans la vie. Donc ouais, Larry June en tant qu'artiste, plutôt pour l'album, en tant qu'artiste, on va le prendre au sens gros du terme, The Alchemist. Vraiment genre là, enfin, depuis 2018, c'est, je sais pas, le mec il est en fire, il y a rien qui touche qui n'est pas bien, comme je le disais avec Bolger. Dont je ne connais pas le prénom, et surtout il a eu, je sais pas, il a eu ce pic là avec l'arrivée de Griselda et ce retour un peu de la musique un peu épurée. J'ai l'impression que c'est un peu du sample, mais ça l'est pas tout le temps. Enfin, que c'est samplé derrière, et c'est. Enfin, je trouve ça. Ce qu'il fait là depuis les 5-6 dernières années, c'est incre. Et la track, j'ai la fait dans ma tête, j'ai décidé exactement, si, de tout oublier. French Montana. Alors, c'est un peu moins récent, ça date de fin 2022.
Okay. C'est étonnant.
Il a sorti. Non, mais parce qu'il avait Carrie Fraud. Il avait Carrie Fraud qui arrive à magnifier son travail, et sur l'album, enfin, une espèce d'album mixtape qui s'appelle Montega. Où t'as une photo justement de French Montana enfant, et c'est une des premières chansons qui s'appelle Rushmore Pack qu'il a clippé, donc j'arrive pas à trouver le sample. Je suis allé sur des forums de Reddit pour retrouver, personne ne sait d'où vient le sample, je sais pas si ça a été clear, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais la chanson est trop bien, même French Montana arrive à rapper dessus à minima décemment, et genre
donc il était battu par un mec qui
écoute French Montana, qui connaît pas le prénom de
Tekashi, qui a gagné sur
et qui a genre l'intégrale des
je n'ai pas voulu le prononcer le nom de Tekashi, c'est pour ça que voilà, j'étais
oui en plus, et j'ai commis la France suprême en prononçant son prénom, mais ouais, donc Rushmore Pack.
Et puisque tu parles d'Harry Fraud, ça me permet encore une fois de placer O3 Guido, puisque Harry Fraud a placé une prod sur l'album, le dernier album dont j'ai parlé. Très sympa.
Ok, et il se peut que t'en aies parlé. J'ai découvert un mec qui s'appelait Polyester The. Non, mais genre des noms, mon gars, qui est très
West Coast, laidback, très sympa. Ouais.
Et que j'ai bien kiffé, mais genre.
On avait déjà parlé, je pense.
Ouais, je pense qu'on avait déjà parlé.
On avait fait une émission sur LA.
Voix Nazillard et tout, enfin tout ce que tu cherches dans la côte ouest des États-Unis se trouve dans un projet de Polyester, le saint.
Ok, par contre marrant, du coup pas du tout de rap francophone dans votre maxi best-of.
Non.
Je vais donner le mien du coup au passage.
C'est vrai. Et toi, quel est ton best-of, Doug?
L'album, je vais faire encore moins, je vais faire encore plus mainstream, parce que moi j'avoue qu'à Hamza, je l'ai mis parce que voilà, c'est très fort.
C'est
dans les morceaux, on n'a pas parlé de cette sortie. Plutôt récente, et je vous ferai écouter le son parce que j'avais vraiment envie de le mettre pendant l'émission parce qu'il est incroyable, je trouve, et je pense que vous n'avez pas assez écouté. C'est bien sûr Metro Boomin et son
Metro Boomin Once a Man. Pardon.
Il y a l'intro, enfin le passage entre l'intro et la track 2, je vous ferai écouter là après l'émission. Malheureusement, on peut pas le mettre pour des questions de droit, etc. Je trouve qu'elle est incroyable, genre personne n'arrive à faire un truc aussi énorme. Vous l'avez pas du tout écouté le
projet ? Non, toujours pas. On en a parlé, on n'a pas tellement parlé, mais non, je sais pas.
Ok, moi je suis toujours aussi fan avec Future, je trouve que ça colle, il est trop fort avec 21 Savage aussi. J'ai l'impression que c'est les deux.
Mais ça va, c'est pas que je tolère maintenant, je respecte tout à fait ce qu'il fait, et ça va. Je commence à apprécier à kiffer, à me prendre le truc, mais je faisais des blagues sur Lil Ziver, machin, tous ces rappeurs YouTube.
Ouais, tu vois, je trouve que tout seul, ça me plairait pas trop, mais les deux ensemble, vu qu'il fait des prods qui prennent tellement de place et tout, d'avoir un espèce de mec qui.
Ça colle super bien, c'est vrai que 21 et Metro, voire pour moi le meilleur projet que j'ai écouté en tout cas de 21, ça reste le premier qu'il avait fait
avec Savage Mode, je crois.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Il en avait sorti un autre d'ailleurs avec.
Ah non, c'est Warning, je crois que ça s'appelle Warning, je sais pas, Without Warning.
Non, Without Warning, c'est avec. C'est un autre, c'est Metro Boomin et 21 Savage et avec Quavo, je crois.
Oui, c'est vrai qu'il.
Un mec de Migos, je sais plus. Avec Migos, on va dire.
On se rappelle qu'ils sont trois dans Migos. 22, pardon, désolé. Je voulais pas faire de blague là-dessus en plus. En tout cas, il y a plus qu'une personne dans Migos.
Mais ouais, ils collent bien ensemble et avec Future aussi, j'étais assez fan. Et du coup, artiste à découvrir, par exemple, je vous l'avais envoyé, c'était donc Koji Radical, un artiste britannique.
Britannique. Oui.
Qui du coup se déclare, enfin lui, poète, rappeur, et notamment son album Reason to Smile qui date de 2022, qui est vraiment très sympa, très soul, etc. Donc pareil pour l'été, allez écouter, c'est très cool et ça fait. C'est bien parce que ça change aussi de l'étiquette rappeur Central C et compagnie. Quoi. Attends, Central C, il est américain, je dis.
Non, il est anglais.
Enfin, du côté vraiment de.
Voilà, attends, là, il y a plusieurs étapes. Toi qui sais qui est Central C, mais tu connais pas sa nationalité, Jojo qui plisse les yeux quand on dit.
Central C, non, ouais. Je
sais pas. Quoi
c'est une espèce de. Non, mais t'as le droit. Hein. C'est un Central C, j'allais dire. C'est la tête d'affiche de la drill anglaise. Mais genre le truc le plus mainstream.
Mais vraiment, ça a vraiment cartonné.
Attends, j'ai tout. Ouais, ok, non.
Il a repris Doja. Enfin, il y a une chanson qui est sortie qui s'appelle. Doja, parce qu'il parle de Doja Cat dedans. Il reprend un. Je sais plus ce qu'il a samplé, un son hyper connu.
Mais du coup, ça sort un peu de cette scène-là qui cartonne pas mal et pour qu'il y ait un autre style. Donc, allez écouter ça.
Moi je voulais aussi un autre mec sur qui je suis tombé parce que j'étais parti totalement dans ce truc un producteur beatmaker un rappeur Jojo qui attire les foudres de l'auditoire, c'est Kota Da Friend, je sais pas si ça vous dit un truc
de nom. Ouais,
et en gros il a fait un projet pareil en binôme avec Static Selecta et genre je me suis refait des enfin c'est pas normal, enfin Kota que j'ai connu là récemment, Static Selecta, il avait même fait un truc avec D6, si je dis pas de conneries, produit une chanson. Et moi, mon kiff, là, depuis 2-3 ans, c'est un rappeur, un beatmaker, il y en a qui le font très bien, The Alchemist, Harry Fraud, Static Selecta, DJ Muggs, il y en a sûrement plein d'autres à côté desquels je passe pour le coup. D'ailleurs, si vous avez des binômes, enfin... On parlait de Metro Boomin et 21 Savage, c'est un poil moins ma cam, mais je kiffe quand même parce que ce que tu disais, c'est une ambiance, c'est un truc. Tu vois, il n'y a que deux qui arrivent.
Il y a une alchimie.
Non, mais oui, mais ouais, il y a une alchimie, ouais, il y a une alchimiste.
Une alchimiste.
Il y a que qui arrivent à le faire là. Je suis très friand de ça justement.
Ok, fort bien. Bah, 1h30 d'émission,
on a bien parlé.
C'est pas mal, je pense.
C'est pas mal.
Du coup, émission qui sera bien sûr. Mis sur les plateformes de streaming les plus connues que vous pourrez donc réécouter, qui sera aussi du coup disponible sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre, nous follow et tout ça sur les réseaux sociaux pour nous donner de la force et pour montrer qu'on est revenu.
Des danses de chacun de nous arrivent sur TikTok, bien évidemment, sur notre fausse chaîne TikTok.
On vous tiendra au courant aussi des prochains sujets. Moi j'avais juste noté, donc ça aussi je vous l'avais envoyé dans le petit groupe qu'on a pour préparer l'émission, il y a le livre Boulogne, une école du rap français qui sort le 3 mai, qui est écrit par Nicolas Rogès, je sais pas si je prononce bien, qui est donc un gars qui a bossé chez Libé et la BCDR notamment, dont la préface est écrite par
Zoki.
Non, elle est trop facile.
Pascal Boniface.
Par
Mehdi Maizi, oui, pardon, c'est vrai que j'avais oublié Monsieur Maizi. Non, c'est vrai.
Un livre de rap. Donc, du coup, je pense que ça peut être cool qu'on puisse faire un petit sujet dessus, à limite la prochaine fois. Ça peut aussi donner l'occasion d'aborder la scène de Boulogne, qui est une scène qui nous tient
riche.
Et qui est riche. Donc, voilà.
Oh, je suis carrément chaud de parler du
passé. Et on vous dit.
Ça a été un kiff et de faire l'émission sur Twitch en live et de là d'avoir aussi un nouveau setup, de revenir, de parler pas plus librement mais dans un format plus libre. Trop bien. J'ai kiffé l'émission, le quiz.
N'hésitez pas du coup à envoyer aussi.
Un bon kiff, ouais, de se retrouver, ouais. De reparler de rap comme ça pendant 2 heures. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc voilà.
On a décidé de prendre le temps. Donc si, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des trucs qui vous paraissent longs, pas longs, des formats, des trucs que vous aimez plus que d'autres. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir des retours.
Cool.
On va vous laisser et on vous enverra de quoi.
De vous sustenter, de quoi écouter, de quoi vous divertir, playlist et autres arrivent très bientôt.
Allez, ciao.
À la prochaine.